Qu'est-ce qui est le plus nocif pour la planète ? Manger un avocat produit à l'autre bout du monde ou un steak produit à quelques dizaines de kilomètres de la maison ? Une protéine animale ou une protéine végétale ? En tant que sportif, nous avons des besoins en énergie plus importants qu'un sédentaire. Donc nous mangeons plus et ça nous paraît logique. Mais quel est l'impact de cette consommation sur les ressources de la planète ? Si vous ne vous êtes jamais posé cette question, Élise se la pose et a creusé, elle, justement ce sujet. Ensemble, nous allons discuter de l'impact de notre nutrition sportive sur l'avenir de la planète. Et je pense que cet épisode va vous faire réfléchir et peut-être aussi vous apporter quelques surprises. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la grande forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42. Et dans ce podcast Sport et Nutrition, je m'intéresse principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive est la plus naturelle possible. Une semaine sur deux, je pars à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et de spécialistes de l'alimentation sportive. Et une semaine sur deux, je vous propose un focus sur des grandes questions, sur des mythes de la nutrition et des questions que vous me posez. D'ailleurs, vous trouverez un lien dans la description de l'épisode vers un formulaire dans lequel vous pouvez suggérer des sujets et poser vos questions. Le but, c'est que nous apprenions tous comment mieux manger au quotidien pour nous sentir en forme, bouger plus, mieux bouger, mieux nous entraîner, mieux récupérer, pour réussir nos défis, devenir champion et championne du monde de notre monde. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Élise, que vous avez déjà entendu mercredi si vous écoutez Kilomètre 42, car je l'avais invitée pour parler de l'impact de notre pratique sur l'environnement, les chemins, la nature. Et il y a un sujet que nous avions gardé pour faire un épisode dédié, celui de la nutrition et de l'impact de la nutrition sportive. En tant que sportif, nous avons des besoins d'énergie plus importants qu'un sédentaire, donc nous mangeons plus, c'est logique. À titre d'exemple, Arnold Schwarzenegger consommait près de 4000 calories, dont 288 grammes de protéines, et Scott Jurek, qui est coureur d'ultra et vegan, lui consomme entre 4000 et 8000 calories par jour, selon s'il s'entraîne ou s'il est en course ou dans un défi, comme sa traversée des États-Unis. Et forcément, cela a un impact sur les ressources de la planète. Production, eau, terre utilisée, les humains, le carburant, le stockage, les plastiques pour entourer tout ça si on en utilise. Mais est-ce que toutes ces calories, par exemple, ont le même impact sur la planète ? Si vous ne vous êtes jamais posé cette question, Élise, elle, se la pose. Élise est sportive, traileuse, bénévole sur des courses, diplômée d'un DU Trail, mais aussi étudiante en sciences de l'environnement. Elle a notamment fait un mémoire sur le développement durable des événements de trail. Et tout ça l'a amenée à faire des recherches aussi sur ces questions de nutrition et de l'impact de notre nutrition sur la planète. Car, il faut le dire, notre pratique sportive n'est pas neutre. Ce que nous mangeons doit être produit d'une manière ou d'une autre. Et le simple fait de manger plus, car nous mangeons plus, nous fait consommer plus de calories et donc émettre plus de gaz à effet de serre, de CO2 par exemple. Et oui, on va le dire, le sportif est potentiellement plus polluant pour la planète que le sédentaire. À quelques nuances cependant, et vous allez voir que cet épisode justement cherche la nuance et le bon dosage. Car finalement, le sportif qui fait attention à son corps et ce qu'il met dedans ne pourrait-il pas compenser ses calories qu'il mange en plus par des sources d'alimentation, de nutrition, qui font que finalement ça compense par rapport à un sédentaire qui mangerait des hamburgers devant sa télé. Ainsi, certaines formes de protéines que nous consommons sont plus écologiques que d'autres. Élise nous aide à nous poser ces questions en nous donnant des chiffres, le résultat d'études scientifiques qui permettent de mesurer l'impact de notre mode de vie sur les ressources climatiques. Vous constaterez qu'il y a quelques surprises, que cela peut faire tomber quelques a priori. Nous avons par exemple parlé de l'impact de la viande et ce qui génère le plus de CO2 et de gaz à effet de serre dans un kilo de viande. Oui, oui, là il y a peut-être des grosses surprises. Des problèmes liés à la pêche, le cas des métaux lourds, des polluants plastiques. Quel est l'impact de manger un fruit bio qui a fait des centaines de kilomètres, de ce fameux avocat souvent cité par ceux qui critiquent les véganes en disant qu'ils mangent beaucoup d'avocats qui ont fait le tour du monde. Nous avons aussi parlé des labels de qualité, de leur impact sur le climat, car ça a été mesuré. Et finalement, la question de savoir si on peut se fier à ces labels pour faire nos courses, si on a une optique climat et d'écologie. Et cette discussion ne concerne pas seulement le produit lui-même, mais aussi dans quoi il est transporté, les contenants. Par exemple, on peut parler des contenants des gels, les bouteilles, les canettes, les gourdes, les compotes. Et tout ça nous amène à revenir sur un sujet important du podcast. Comment éviter de consommer trop de produits ultra transformés ? Car c'est finalement un grand paradoxe que nous avons parfois. Nous faisons du sport pour être en forme, nous sentir bien, pour vivre en bonne santé, plus vieux, pour profiter de la nature. Nous faisons des efforts pour manger mieux. Mais certaines de nos habitudes peuvent sembler paradoxales quand on regarde l'objectif final. Et finalement, poser la question même de savoir si nous pouvons continuer à faire ainsi, si nous voulons pouvoir profiter du sport tel que nous faisons, de la nature telle que nous aimons en profiter, ce qui était le sujet de l'épisode de Kilomètre 42. Le but de cet épisode est de réfléchir à ces sujets, une autre manière de manger, et vous allez voir que ça pose beaucoup de questions. Et juste avant de vous laisser avec ma discussion avec Élise, je veux remercier Coro qui sponsorise cet épisode et ce podcast cette année encore. Dans ce podcast, nous vous partageons des conseils de sportifs, de coachs, de spécialistes qui valorisent une alimentation équilibrée, des produits naturels, des ingrédients bruts à cuisiner. Et avec Élise, nous parlons des sources de protéines et notamment la richesse du monde végétal. Et dans ce domaine, je vous recommande de jeter un œil à Coro, KOERO.fr, qui est la boutique pour les passionnés de produits sains, car Coro propose de nombreuses sources de protéines végétales, des oléagineux bruts, des purées d'oléagineux, du tofu, du seitan, des farines ou encore des protéines végétales en poudre. Vous savez que je suis fan de beurre de cacahuète, mais j'adore aussi la purée d'amande, qui est presque aussi riche en protéines, mais je fais aussi des pancakes avec de la farine de lupin qui ne contient pas de gluten, mais qui contient 40% de protéines. Oui, 40%, c'est juste énorme. Au total, Coro propose plus de 1200 produits. Et pour vous aider dans votre budget, j'ai négocié avec eux une réduction sur toute la boutique. Il vous suffit de vous rendre sur la boutique Coro, KOERO.fr, et utiliser le code HAMSTERS5 pour en profiter. Bien entendu, le lien est dans la description de l'épisode. Je remercie tout particulièrement Coro de soutenir ce podcast, et je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Élise. C'est parti. Bonjour Élise.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va, écoute... La semaine se termine, ça fait du bien.
Bon, je te demande pas quel temps il fait à La Réunion, parce que ici, c'est censé être le printemps, et il neigeait presque. Tu vois, il fait froid et tout. On enregistre le 26 avril. Moi, j'en ai marre du mois d'avril, qui ressemble au mois de mars, au mois de janvier, au mois de février. Donc j'espère que toi, quand même, ça doit faire un peu plus chaud quand même.
Bah nous, ça, oui, il fait plus chaud maintenant. Ça, on commence à rentrer dans la période un peu plus transition vers l'hiver. Et là, il y a juste eu un truc qui m'a fait rire en début de semaine, parce que moi, je pars faire des sorties terrain et on part à 6h30. Et du coup, je sors de chez moi à 6h pour partir. Je me fais, tiens, il fait bon ce matin. Et j'arrive et je vois mon collègue. Je dis, tiens, il faisait bon ce matin. Il me fait, ouais, il faisait pas trop froid. Mais je disais ça dans le sens, il faisait pas trop chaud. Mais oui. Donc, on sent que les nuits se rafraîchissent un peu, mais quand je dis se rafraîchissent, voilà, il fait 23-24 quand on part le matin, quoi.
Voilà, donc rappelons que tu es à Réunion. Tu n'es même pas en vacances, hein, c'est pour tes études, pour le travail. Alors, c'est le deuxième épisode qu'on enregistre ensemble. Alors, sur l'ordre des épisodes, je le dis, j'ai un petit peu fait des interversions et tout, donc je ne sais pas si l'autre épisode sur Kilomètre 42 sera sorti avant ou après, ce n'est pas très grave. Donc, ce que je te propose, c'est de refaire une courte présentation, mais en fait, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est super intéressant, que tu m'avais proposé pour parler de, comment tu l'as défini, c'est l'impact écologique de nos pratiques alimentaires et sportives.
Ouais, là, bah, l'impact environnemental, en fait, de l'alimentation, qui est d'autant plus crucial quand on fait du sport.
Ouais,
en fait.
Voilà. Alors, je vais te laisser te présenter en quelques mots pour redire un petit peu comment t'en es venu à réfléchir sur ces questions-là, comment t'as étudié ça en fait.
Alors, à la base, j'ai une formation de chimie. J'ai fait une licence en chimie et il s'est trouvé qu'il y a eu un virus qui s'appelle le Covid qui est arrivé et j'ai terminé du coup à faire une césure plutôt que d'avoir le couvre-feu jusqu'à 18h. Et là, je me suis pas mal intéressée, comme des fois je savais pas trop quoi faire, à rester enfermée comme ça, et puis on entendait quand même beaucoup de choses aussi sur les aspects environnementaux avec le Covid et tout, et j'ai commencé à vraiment me poser des questions sur ok, ben, c'est quoi le développement durable, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que les limites planétaires, etc. Donc j'ai commencé à lire des publications là-dedans et ça m'a vachement intéressée, et puis en parallèle j'étais à Grenoble, j'ai commencé le trail. Et du coup, à voir vraiment les aspects environnementaux, ça m'a bien plu et je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de continuer dans l'environnement. Donc j'ai fait un diplôme universitaire en trail en fait pendant ma dernière année de licence de chimie et j'ai voulu m'intéresser à l'impact environnemental des événements de trail. Et après, je suis rentrée en master en sciences de l'environnement à l'université de Genève, en spécialité biodiversité. J'ai fait un diplôme universitaire en botanique et maintenant je suis partie faire un Erasmus à La Réunion et travailler vraiment sur l'aspect végétation, biodiversité, parce que c'est des problématiques qui m'intéressent et d'autant plus en lien avec ma pratique sportive, donc plus trail et randonnée. Et l'aspect alimentation, il est arrivé, un peu... Un peu en même temps parce que donc j'ai eu une phase de troubles alimentaires donc qui m'a forcé en fait à me poser des questions sur mon alimentation. Et puis j'ai décidé de devenir végétarienne en 2018 et à la base c'était pour l'aspect animaux. Donc il a fallu que je me renseigne aussi. Et petit à petit, en faisant mes recherches sur l'environnement, sur tout ça, je me suis posé les questions, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? Parce que l'alimentation, on parle du côté santé, mais le côté environnemental, quels sont les impacts? Et je me suis de plus en plus en fait intéressée à ce domaine-là, et en particulier aussi parce que j'aime bien cuisiner. Voilà.
C'est un vaste sujet. Alors, surtout que tu as dit en plus, tu es devenue végétarienne ou.
Je suis végétarienne, mais à tendance végétalienne, on va
À
dire.
tendance végétalienne. Bon. Parce que c'est vrai que quand on parle toujours de manger végétal, on a souvent ce côté écologie. Alors, il y a le côté bien-être animal qui intervient, il y a aussi le côté écologie. Et c'est vrai qu'il y a des questions. Alors, on avait parlé dans l'autre épisode sur finalement qu'on n'a pas trop conscience des fois de où on met les pieds, des chemins, comment ça se forme, du fait qu'il ne faut pas jeter un bout de banane, parce que sinon les marmottes deviennent diabétiques. Mais c'est vrai que quand on fait du sport comme nous, quand on s'entraîne, quand on a besoin de manger, grosso modo quand même plus que si on faisait rien, qu'on restait dans notre canapé, enfin, on va dire, ça engendre d'une manière ou d'une autre, en fait, par une sorte de cascade, on pourrait dire, par je ne sais pas par quel moyen, finalement, une question qui est de se dire d'où vient ce qu'on mange, quel impact. On avait parlé un peu avec une autre sur WeTrust sur le business des protéines. On ne se rend pas trop compte des protéines animales, d'où elles viennent. On parle souvent, alors moi je sais que j'aime bien les noix de cajou, mais alors depuis que je vois comment sont faites les noix de cajou, je me dis. Est-ce qu'il faut en manger, pas en manger? En manger quelques-unes, pas quelques-unes? On aime bien manger un avocat, mais bon, en France, c'est pareil. Que l'avocat, d'où il vient, comment ça se transporte, etc. Quelles sont les quantités qu'on mange, qu'on mange et tout. Je sais pas si on. Enfin, moi, j'y pensais pas beaucoup à cette histoire-là, honnêtement, tu vois, sur le truc, de me dire, finalement, le fait de bouger plus ici, dans mon coin, et de manger plus pour arriver à carburer et tout, j'ai jamais pensé à l'impact. Je le dis très clairement que ça pouvait avoir plus largement sur la planète. Tu vois, très clairement.
C'est une question qui est compliquée. Moi, c'est vrai que bon, ayant des études en sciences, je me suis basée surtout sur des publications. Et d'ailleurs, si ça intéresse des personnes, je peux tout à fait transmettre les publications. Il n'y a aucun souci. Mais il a été démontré que l'impact environnemental, donc là, je crois que c'était en termes de gaz à effet de serre lié à l'alimentation, est très fortement corrélé à la quantité de calories ingérées. Donc plus on ingère de calories, plus on a d'émissions de gaz à effet de serre. C'est totalement corrélé. Donc un sportif qui va consommer normalement plus que quelqu'un de sédentaire ayant une alimentation adaptée à son mode de vie, forcément engendrera davantage de gaz à effet de serre. En ayant là, je parle de deux personnes qui auraient des diètes équivalentes et qui auraient juste des niveaux d'activité différents. Donc là, c'est juste lié au fait qu'il y en a un qui ingère plus de calories que l'autre. Et il faut savoir que on parle de beaucoup d'études sont faites pour l'instant sur les émissions de gaz à effet de serre, sur les aspects de biodiversité, ça commence, sur la pollution de l'eau, de l'air et des sols aussi. Mais en tout cas, en ce qui concerne les émissions de carbone, l'alimentation, c'est le troisième poste d'émission après le transport et l'énergie pour se chauffer. Ça représente à peu près 30% de nos émissions de carbone annuelles. Et c'est en fait ce qui est intéressant avec l'alimentation, c'est que parmi ces trois principaux postes d'émission, c'est celui où en tant qu'individu, on a le plus de levier parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle des effets verrous. Donc c'est des effets qui vont être liés à la... des effets structurels liés au fait, par exemple, qu'il faut demander pour les transports, vous avez peut-être envie de plus prendre votre voiture et prendre le bus, mais pour pouvoir prendre le bus, il faut qu'il y ait une ligne de bus, et pour pouvoir avoir une ligne de bus, il faut que la mairie l'accepte, qu'il y ait des... Voilà. L'alimentation, en fait, on va au supermarché et pour un même budget, on peut avoir plein de choix différents d'alimentation. Et c'est lié à nos cultures, nos valeurs. Donc c'est quelque chose sur lequel, en tant qu'individu, on a quand même un pouvoir de réduction qui est assez fort. Bien entendu, les techniques de production, de choses comme ça, ont un gros impact, mais nous, dans nos choix, on peut vraiment faire une différence. Et donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Et c'est pas forcément des gros changements. Évidemment, plus on fera des changements importants, plus on aura une réduction de l'impact et ou alors un impact positif. Je sais pas si on peut dire impact positif, mais en tout cas, on aura plus en adéquation, on va dire, avec ce qu'il faudrait pour avoir un futur durable, en fait. Et c'est quelque chose sur lequel on peut agir très facilement en tant qu'individu. Donc c'est pour ça que l'alimentation est un sujet hyper intéressant, parce qu'il prend en compte à la fois des aspects de santé, donc de santé publique, enfin, nutrition individuelle, et il prend en compte des aspects environnementaux, il prend en compte des valeurs culturelles, des valeurs sociales. Donc il y a vraiment tout un tas de trucs à faire, quoi.
Ouais. Et tu l'as dit, hein, à diète égale, hein, c'est-à-dire que
Oui.
on est vraiment dans le même cadre, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait pas de sport et quelqu'un qui fait et que la même personne qui se mettra à faire du sport, et d'autant plus après il y a des questions de niveau d'entraînement, de volume, etc. S'il mange le même type de repas, dans tous les cas, du moment qu'il va manger plus, il consomme plus de carbone, donc il a un impact, on va dire, sur la planète qui est plus important.
Voilà, là, ça a été quantifié en termes de carbone, mais c'est valable pour toutes les autres limites planétaires, hein, biodiversité, etc., utilisation des sols. Oui, donc forcément, il aura ça. Et c'est pour ça que je pense qu'en tant que sportif, et notamment sportif qui faisons du sport de nature, c'est à prendre en compte. Quand on sait surtout que les terres agricoles, aujourd'hui, c'est ça qui est le principal responsable de la perte de biodiversité et de la perte d'espace naturel. C'est la menace numéro une, enfin c'est dans les 5 premières menaces, il me semble que c'est la une ou la deuxième, je n'ai plus en tête exactement, qui a été mise en avant par l'IPBES, si je ne dis pas de bêtises, peut-être. Mais en gros, voilà, c'est quelque chose, l'aspect agriculture et déforestation et perte de terres naturelles, c'est lié en grande partie à l'alimentation. Et notamment, les produits animaux, c'est ce qui a le plus fort impact. Ça, que ce soit, alors, ça a le plus fort impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre, pas uniquement carbone, c'est pour ça que je vais englober gaz à effet de serre et ce qu'on appelle les CO2 équivalents. Donc là, c'est des unités de réchauffement, mais par exemple, le méthane va aussi réchauffer l'atmosphère, et donc on a une métrique qui s'appelle des CO2 équivalents et qui permet d'englober tous les gaz à effet de serre dedans. Donc voilà, donc il va y avoir les gaz à effet de serre, ça a un impact plus important sur la perte de biodiversité et sur ce qui est la pollution, l'utilisation des ressources en eau et la pollution de l'air, non, et la pollution des sols. Là, c'est des impacts encore mitigés, mais en tout cas, les plus grandes études qu'on fait montrent quand même qu'il y a une tendance pour les régimes carnés à avoir beaucoup plus d'impact. Et la plupart des études, en fait, elles vont diviser les différentes diètes. Il va y avoir les gros mangeurs de viande, les moyens, les petits. Il va y avoir les pescétariens. Donc là, c'est ceux qui mangent pas de viande mais du poisson. Les végétariens. Donc, qui mangent pas de viande, pas de fruits de mer, pas de poisson, mais qui mangent du miel, des produits laitiers et des œufs. Et il va y avoir les végétaliens, donc là, qui excluent tout aliment d'origine animale. Et ce qui a été montré, c'est que les gros mangeurs de viande ont bien plus d'impact que les végétaliens, mais ils ont aussi bien plus d'impact que les moins gros mangeurs de viande. Donc, on n'est pas, si on veut réduire son impact, même si j'aimerais bien que tout le monde soit végétarien, on n'est pas obligé de se dire il faut passer de zéro, enfin de tout à rien. Et ce qu'on appelle gros mangeur, juste pour dire, je pense que ça va faire bizarre à certaines personnes, mais un gros mangeur de viande, c'est quelqu'un qui va consommer plus de 100 grammes par jour.
100 grammes par
Un
jour.
steak, ça fait 100 grammes.
Donc celui qui est adepte, alors je vais prendre un peu la caricature parce que c'était Thibaut InShape à une époque, sa dinde, son filet de dinde riz tous les jours. Là, de toute façon, un filet de dinde, puis c'est 120 grammes, 125 grammes minimum, et encore il en faut plus pour quand on veut prendre du muscle. Donc 200 et quelques grammes. Là, celui-là, il est déjà, il fait partie de la catégorie gros mangeur. Donc c'est
Oui,
au summum du summum, quoi.
c'est-à-dire que c'est tous les jours, mais par exemple, quelqu'un qui va manger un filet de dinde un jour sur deux, bah, il sera qu'à 50 grammes. En fait, la consommation, c'est plus qu'il faut l'avoir. Là, on parle de grammes par jour, mais en soi, pour diminuer sa consommation, c'est pas on va diminuer la portion, mais c'est on va diminuer la fréquence. Et en fait, ce qui est assez intéressant au niveau des gaz à effet de serre, c'est que, donc là j'ai trouvé ce chiffre, c'est que la viande, en termes d'apport journalier, elle représente 11% des calories qu'on mange.
D'accord.
Mais par contre, en termes de gaz à effet de serre émis, elle représente 30% des gaz à effet de serre liés à l'alimentation qu'on émet. Donc on voit qu'en fait, c'est pas, si on veut avoir un apport calorique, en fait, c'est pas du tout. Et en même temps, limiter ses impacts sur la planète, c'est pas franchement le bon truc. Après, il y a des questions effectivement d'équilibre nutritionnel, mais ça, on peut équilibrer autrement. Et effectivement, le but, c'est pas de dire juste j'enlève la viande et je remplace par rien du tout, parce que là, oui, non, là, ça va être la cata, sinon
Là,
la
je
matière.
renvoie sur un épisode avec Sébastien Diffenbrand, sur lequel tous les végans nous sont tombés dessus, mais en disant hey, c'est n'importe quoi, vous racontez que des conneries, etc. et tout. Bon, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais n'empêche que oui, tu as raison de le préciser, je le reprécise, surtout pour les sportifs. On ne s'invente pas en disant j'enlève la viande, mais il faut trouver le moyen de trouver dans son alimentation ce qui va remplacer, ce qui va amener. Ce qui peut être le cas aussi dépend du genre de viande, hein, parce que franchement, les carences qu'on peut avoir en B9 et compagnie, chez les mangeurs de viande, on la trouve aussi, donc, et même dans le fer. Hein, donc je vois aussi chez des gens qui mangent de la viande et qui manquent de fer aussi, et notamment chez les coureurs et les coureuses. Donc je veux dire, voilà, j'accuse pas, je dis pas qu'attention, c'est danger, danger. Je dis juste, ça se réfléchit, parce que ça, c'est un élément qui est important.
Oui, bien sûr, il faut pas. En fait, on peut faire, si on a une volonté de devenir végétarien, on peut le faire graduellement, mais on peut aussi réduire sa consommation et changer de type de viande, parce que la viande rouge, c'est vraiment le pire du pire de chez pire en termes d'impact environnemental, à la fois sur le carbone, sur l'utilisation des sols, sur tout ce qu'on veut. Donc, déjà, de dire, par exemple, quelqu'un qui. Enfin, faire un choix de prendre du poulet plutôt que le beefsteak, déjà, ça aura un gros impact. Donc, il faut voir ça. C'est pas, je ne suis pas en train de dire qu'il faut complètement arrêter, c'est qu'il faut vraiment diminuer. Et ça, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que nous, en tant que pays occidentaux, on diminue notre consommation. Et en fait, il y a les pays qui, eux, sont en voie de développement. Eux, faudrait que, il y en ait certains qui augmentent un peu, de façon à converger vers un seuil beaucoup plus faible que le nôtre actuellement. Donc ça, c'est dans le cas pour les personnes qui s'intéressent, enfin, où il n'y a pas de considération, j'ai envie de dire, forcément du bien-être animal dedans. Après, je pense que devenir végétarien ou végane, c'est des diètes qui, en fait, c'est sûr que c'est les diètes qui ont le moins d'impact, quasiment sûr. Pas sur encore tous les aspects, sûr et certain. Ça dépend aussi si on fait que manger des aliments ultra transformés, voilà. Mais c'est les diètes qui, aujourd'hui, on a remarqué sur un plan environnemental, ont le moins d'impact. Mais maintenant, et puis quand on fait ces choix-là, je pense qu'il y a une part aussi d'éthique et de rapport à l'animal. Hein. Moi, je sais que je ne pourrais pas. Enfin, en fait, je vois un animal aujourd'hui, de la viande, je vois un cadavre. Donc, je ne pourrais pas, en fait, moi, je ne peux pas en manger, quoi, j'y arrive pas. Mais je comprends tout à fait que ça puisse faire plaisir et qu'on puisse avoir envie de continuer à en manger. Et puis après, ça peut être une transition. Voilà, on peut se dire, bah, je diminue, puis après, on va trouver d'autres choses qui nous font plaisir, et petit à petit, venir à plus en manger. Ça arrive aussi. Donc voilà, après, sur les aspects nutritionnels, c'est quelque chose qui est complexe, qui, comme tu l'as dit, faut pas le faire de façon sans y réfléchir. Moi, quand je suis devenue végétarienne, je me suis fait suivre par des nutritionnistes, diététiciens, et puis j'ai pris mon ordinateur, j'ai pris Google Scholar, on trouve plein d'articles scientifiques, j'ai pris la FAO, les rapports, puis j'ai bouquiné, puis j'ai lu pour comprendre comment faire en fait. Et aujourd'hui, ça fait presque 6 ans que je suis végétarienne. Au niveau des carences, il faut supplémenter en B12, ça c'est clair. Après, moi, j'ai eu des Carences en fer qui sont. Elles n'ont jamais été très graves, les carences en fer que j'ai eues, mais ça, c'est parce que, a priori, dans ma famille, on l'absorbe pas bien. Donc, je pense pas que ce soit lié à mon régime, parce que, donc, quand j'en parlais avec mes diététiciennes, c'était pas ça. Voilà, donc aujourd'hui, je suis supplémentée en fer, mais sinon, j'ai jamais eu de carence en protéines, hein, jamais eu de soucis, parce qu'on l'entend beaucoup, celle-là, mais si on équilibre bien, il n'y a pas de soucis particuliers.
Non, mais c'est vrai, il faut le dire, parce qu'après, tout le monde dit oui, mais il y a des sportifs de haut niveau, ils sont végétariens, ils sont véganes, ça pose pas de problème, etc. Oui, mais on revient sur cette histoire, c'est un
Oui.
calcul. C'est-à-dire qu'il y a un calcul dans cette histoire-là. Mais comme tu l'as dit, c'est vrai que il y aurait des échelles, en fait, entre ceux. Parce que on voit une tendance, quand même, je vais le dire. Moi, je vois sur les réseaux sociaux, il y a les gens qui sont diète carnivore. Et là, ils mangent même que de la viande. C'est-à-dire que même certains ont même enlevé les légumes. Alors,
Là, je suis pas sûre que ce soit très bon pour la santé non plus, là.
là, j'ai toujours envie de les renvoyer aux épisodes sur le microbiote pour qu'ils voient l'intérêt des fibres pour le microbiote et l'impact du microbiote sur la santé et tout. Mais là, c'est d'aparté. Mais c'est vrai que quand même, on voit. Alors, eux, ils sont en gros mangeurs de viande. Hein, ils sont hop, directement. Mais c'est vrai qu'on pourrait dire qu'on peut essayer d'avoir des étages, hein. Tu disais, il y a des gros mangeurs de viande. Et on voit que c'est pas haut, hein, quand même, le truc. Et puis
Non,
ensuite, on peut avoir des
non.
étages intermédiaires. Il y a une recommandation d'Anthony Fardet qui était, je trouvais, assez intéressante, c'est de considérer que finalement, le plat principal peut être le végétal et que la viande peut être
Oui.
un accompagnement. Et on voit que ben, finalement, ça change un petit peu le rapport à l'assiette. C'est intéressant parce que c'est une considération qui est à la fois écologique et sur le plan de la santé. C'est-à-dire qu'il y a le mix de l'ensemble. Reste après, c'est vrai qu'il y a cette question-là, parce qu'on parle de sport quand même, c'est comment on équilibre globalement ses besoins énergétiques, ses besoins aussi en
Bah.
protéines, etc., pour arriver à trouver l'ensemble de ce qu'on doit avoir pour bien se nourrir, quoi.
Oui, après, pour moi, la question d'équilibrer ses besoins alimentaires, c'est pas du tout lié au fait de manger des produits animaux ou pas de produits animaux. C'est lié au fait de réfléchir à l'équilibre alimentaire. Donc, il y a des macronutriments, des micronutriments, et on a énormément d'aliments à notre disposition. Et après, c'est des questions de choix et de préférences individuelles. Donc, en fait, il faut avoir ça en tête. C'est que c'est pas. Pour moi, c'est pas lié au type de diète qu'on choisit. C'est que quelqu'un peut manger de la viande et peut très bien se retrouver en carence, en déficit nutritionnel ou à l'inverse, en excès de protéines ou de choses comme ça, en étant végétarien ou en étant carnivore, enfin omnivore plutôt que carnivore. Mais je pense qu'il faut pas en faire un dogme. En fait, c'est pas parce que on mange pas de produits animaux qu'on est forcément plus maigre. Ça doit pas être le truc de dire bah, je veux le faire pour perdre du poids parce que c'est pas. Enfin, je veux dire, les chips c'est végétarien, hein, voilà. C'est une question vraiment à partir du moment où on a une activité physique qui impose d'avoir des apports suffisants. Il faut un minimum réfléchir à ce qu'on mange ou au moins apprendre à bien écouter son corps. Je suis pas là. Alors là, par contre, je dis surtout de pas calculer ses calories. Ça, par contre, c'est pas la peine. Voilà. Mais éventuellement de faire des points réguliers, de se faire suivre un peu parce qu'on a un mode de vie qui nécessite effectivement d'y réfléchir. Mais ça, pour moi, c'est indépendant en fait de la diète qu'on souhaite avoir.
Alors, tu disais que le carnivore, enfin, on va dire carnivore, les gros consommateurs de viande, c'est le pire
Ouais.
pour la planète. Et
Oui.
que le végétal, dans toutes ses formes diverses et variées, c'est finalement ce qui est le meilleur. Alors, après, certains vont me dire, oui, mais le poisson, il y a quand même les formes de pêche.
Poisson, c'est compliqué.
Voilà, c'est compliqué le
Poisson, c'est
poisson, hein.
compliqué. Dans les études, c'est surtout viande versus végétal. Le poisson, c'est compliqué parce que je pense qu'on parle pas des mêmes impacts. Dans le sens où la plupart, en fait, en ce qui concerne la viande, les impacts sur la pollution des sols, l'utilisation des ressources en eau, le réchauffement climatique et la perte de biodiversité, ça va être lié principalement donc aux terres qui sont nécessaires pour faire de l'élevage, aux terres qui sont nécessaires pour nourrir l'élevage, parce que je rappelle juste quand même que Par exemple, les tourteaux de soja qui sont utilisés massivement dans l'industrie pour nourrir les animaux, c'est eux qui proviennent de la déforestation. En fait, la majorité des terres aujourd'hui où il y a de la déforestation, c'est pour planter des fourrages qui vont servir à nourrir les ruminants et les animaux. C'est pas lié pour l'alimentation directement humaine. Donc ça rentre en compte, c'est ce qu'on va appeler plutôt des impacts indirects, c'est-à-dire que ça va être pas directement l'impact, la déforestation est utilisée pour nourrir l'animal qui est utilisé pour nous nourrir. Donc là, c'est un impact plus en cascade. Pour tout ce qui est les gaz à effet de serre, eh bien là, ça va être les gaz qui sont émis par les ruminants, donc les et puis tout ce qui va être la gestion des caca des vaches, quoi, des boules de vache, tout ce qui est en fait ces gestions-là qui vont poser beaucoup de soucis et l'impact lié au engrais, désolé, j'avais le mot en anglais, les engrais qui sont aussi utilisés pour faire grandir pour faire pousser, pardon, les végétaux qui vont être utilisés pour l'alimentation animale. Donc ça, c'est vrai qu'en termes de viande, les impacts sont principalement liés donc aux terres utilisées pour l'élevage, aux animaux en eux-mêmes, mais aussi à toute la partie qu'est-ce qu'on fait pour nourrir ces animaux, pour ensuite donc les antibiotiques, les abattoirs, etc. Pour les poissons, il y a de la pisciculture effectivement, mais c'est des terres qui, enfin, il y a de la pêche en mer, donc c'est pas quelque chose. On arrive moins, peut-être, je pense, moins bien à le quantifier, mais l'impact qui va surtout être là et qui est moins représenté dans les limites planétaires, qui va être représenté dans la perte de biodiversité, mais indirectement, c'est les impacts liés à la surpêche et à la perte de. En fait, de. On entend pas mal les histoires d'espèces rares qui se font prendre dans les filets, etc. Mais il y a tout l'impact qu'en fait on capture au niveau de la chaîne alimentaire. Bah, il y a les algues, il y a le phytoplancton, le zooplancton, les petits poissons, les moyens poissons et les gros poissons et les très très gros poissons. Et donc nous, en pêchant, on va venir déséquilibrer cette chaîne alimentaire. Et donc peut-être que oui, on va pas pêcher le requin, mais en fait on va le priver de nourriture et donc indirectement on va aussi l'impacter. Et je pense que c'est pour ça que le poisson, on connaît peut-être un petit, on arrive moins à peut-être à quantifier l'impact parce qu'il est moins visible. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. C'est pas parce qu'on n'a pas quantifié l'impact, c'est pas parce qu'on regarde, il n'y a pas que le carbone dans la vie et il y a d'autres impacts qu'on connaît moins bien. C'est pas pour autant qu'il n'existe pas. Donc c'est vrai. Puis il y a les questions, bon, après, de santé liées aux métaux lourds. Hein. Ça, c'est plus lié à la santé, mais quelque part. La santé humaine est liée aussi à la santé de la planète, hein, et dans tous les sens du terme. Hein, donc,
Ce qu'on avait dit la dernière fois aussi, hein, c'est tout le concept de One
ouais.
Earth, une santé
One
globale.
Health.
Et il faut le dire parce que sur la pêche, il y a quand même, on voit qu'il y a quand même des questions qui se posent, notamment sur la pêche au chalut.
Oui.
La Grèce interdit là, il y a quelques jours, interdit la pêche au chalut dans ses eaux, en Méditerranée. Donc, quand même, défenseurs de la planète disent c'est cool. On sait quand même que en Bretagne, il y a quand même un gros lobby des pêcheurs qui sont des gros pêcheurs au chalut. Et que le problème en fait, c'est que ça abîme. C'est vrai que ça abîme les fonds. Tu disais ça peut ramasser tout un tas de
Oui.
trucs. Ça perturbe la chaîne alimentaire. Il y a beaucoup de surpêche aussi quand même. Hein. Il y a en quantité de pêche
Oui.
qui devient énorme. On a beaucoup pointé du doigt la pêche et les Japonais avec la baleine, disparition de certaines espèces, etc. Enfin, il y a tout un tas de trucs autour de la pêche. Mais c'est vrai que c'est peut-être moins étudié. Ou alors on va reparler de la Norvège avec le saumon qu'il faudrait pas trop manger sur les histoires
Oui.
de polluants et tout. Et en même temps, on sent quand même qu'il y a une inquiétude qui monte. Parce que tu vois, j'ai eu une question alors qui là, il faut traiter avec des gens qui sont spécialistes en mesure de tout ça, en disant,
Ouais.
bah moi, le poisson, j'ai plus trop envie d'en manger parce que j'entends toutes les histoires de perturbations, de comment ça s'appelle, de métaux lourds et tout, et comment
Ben
on
ouais.
fait, etc. C'est compliqué.
En fait, la problématique des métaux lourds, pour expliquer un peu ce qui se passe, c'est le concept qu'on va appeler de la bioaccumulation. Donc, c'est-à-dire que les métaux lourds, et je vais prendre par exemple l'exemple du mercure, parce que c'est celui que j'ai étudié en cours, hein. Le mercure, on a pas mal de pollution au mercure, et il y a une forme soluble, en fait, du mercure qui vient se fixer dans les organismes. Et donc, encore une fois, il faut comprendre le principe de la chaîne alimentaire. Donc, on va avoir des tout petits poissons qui, eux, vont avoir un petit peu de mercure dans leur corps. Ensuite, on va avoir des poissons qui vont les manger, sauf qu'ils ne vont pas manger un seul de ces petits poissons. Ils vont manger 10, ils vont manger 20. Donc, ils vont capturer la quantité de mercure de 10 ou 20 petits poissons. Ensuite, cet autre moyen poisson, il va être mangé par exemple par le thon. Je crois que le thon est carnivore, je suis pas sûre. Et donc là, bah, le thon, il va récupérer la quantité de mercure qu'il y a dans le corps de 10 moyens poissons qui eux-mêmes ont la quantité de mercure qu'il y a dans 10 petits poissons. Et donc en fait, les métaux lourds vont s'accumuler le long de la chaîne alimentaire. Et nous, quand on va manger ces gros poissons comme les poissons gras, surtout parce que là, c'est des phénomènes chimiques, mais en fait, les polluants ont tendance à se mettre dans les lipides. Je crois, si je dis des bêtises, faudra me le dire, hein, mais c'est, il me semble qu'il y a une histoire, en fait, où ça s'associe mieux avec les lipides, et donc, on va conserver plus ça, et c'est ça le problème des polluants, c'est qu'ils vont s'accumuler, c'est pour ça qu'on parle de bioaccumulation, c'est bio, parce que, bio pour vie, et accumulation parce que ça s'accumule et ça s'amplifie. On peut même parler de bioamplification, c'est ça s'amplifie le long de la chaîne alimentaire. Donc, effectivement, plus il y a de pollution et plus on va avoir cette bioaccumulation. Mais on parle des métaux lourds, ça vaut aussi pour les plastiques, par exemple.
Dont on parle aussi beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que la recommandation sur les fameux poissons gras, qu'il faut, hein, parce qu'il faut du poisson gras pour la santé, ou en tout cas, ce qu'ils apportent, les
Oui,
gras
voilà,
qu'ils
ce qu'ils
apportent,
apportent, ouais.
parce que c'est ça en fait, le raccourci tu vois, que j'ai fait un peu rapidement, mais je suis un peu l'avocat du diable aujourd'hui, hein. Je te le dis, j'aime bien être l'avocat du diable,
Oh, tu peux, hein.
c'est de dire ben, que, en fait, on va dire, pour avoir ces fameux matières grasses dont on a besoin, qui sont importantes, qui sont présentes dans ces fameux poissons gras, on dit allez plutôt manger des petits poissons gras que des gros, parce que justement c'est cette histoire
Oui.
d'accumulation, en disant les petits ils en ont mangé moins que les gros qui ont mangé tout le reste de la chaîne alimentaire et donc qui ont une accumulation qui est plus importante. Moi je suis fan du macro, donc personnellement je suis, tu vois, mais il n'y a pas de mesure dans mon macro pour dire combien il y a de mercure, combien il y a de trucs de plastoc,
Non.
etc. C'est des.
Puis c'est des choses qu'on ne connaît pas. En fait, avec toutes les sources de polluants qu'on a, j'avoue qu'on ne connaît pas bien les impacts. C'est des choses qui sont très récentes. Si on prend l'exemple des microplastiques, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on sait très très mal quantifier. C'est des trucs qu'on se rend compte que c'est là, on se rend compte petit à petit que ça pose problème, mais on n'a pas encore, on ne sait pas encore bien le quantifier. On ne connaît pas bien les effets sur la santé de l'homme et de l'environnement. Donc voilà. Après, moi, je suis pas. Enfin, on sait qu'il y a des impacts. Maintenant, je pense que ça sert à rien. Ça, c'est que mon avis, hein, mais de se focaliser ou de diaboliser une chose parce qu'il y a tellement de sources de polluants dans notre corps et dans notre environnement que pointer du doigt juste un seul truc, bon, je suis pas sûre que ce soit très pertinent. Disons qu'il vaut mieux chercher à réduire en globalité plutôt que dire je veux plus un truc.
Ouais.
Mais voilà quoi, c'est.
Mais après, tu vois, donc je disais, j'étais un peu l'avocat du diable en disant, bon, ces fameux, on va dire, ces oméga-3 qu'on va aller chercher dans les poissons gras,
Ouais.
on peut aller les trouver ailleurs. Et tu vois, et ça revenait un peu à la question que j'avais chez la personne qui me disait, mais finalement, comment je suis certain que mes oméga-3 que je vais aller chercher, par exemple, dans des compléments, tu vois, pourquoi?
Ouais.
Ou alors qu'on pourrait aller chercher dans du végétal aussi, si parce qu'on va en avoir dans
Oui.
certains végétaux, certaines huiles, etc. La question qu'il me posait, c'était sur la qualité, est-ce que la qualité d'absorption, etc. Donc là, ça, on va le laisser pour aujourd'hui, parce que je poserai la question
Ouais,
à des
ça, on
gens
peut
qui s'y
pas.
connaissent, parce que là, c'est quelque chose je pense, qui demande vraiment une étude, un épisode à part entière.
Oui.
Mais c'est vrai que, par contre, ça pose la question de se dire d'où viennent aussi, par exemple, les compléments alimentaires, les composés des compléments alimentaires, d'où viennent peut-être, je sais pas, certaines huiles qu'on consomme, tu vois, en disant, bah, il y a des huiles qui sont
Eh
bonnes.
ben,
Quel rôle ça
alors
joue,
là,
tu vois?
justement, il y a eu, il y a un truc. J'ai trouvé pareil, j'avais trouvé une étude que j'avais trouvée très intéressante. C'est parce que on a tendance beaucoup à se. Et moi je pensais vraiment, et cette étude, je l'ai trouvée hyper intéressante pour ça, c'est qu'on a tendance à penser transport, à se
Ouais.
dire oui, mais si ça vient de l'autre bout de la planète, si ça a pris l'avion, machin, c'est ça consomme plus de carbone, etc. et tout. En réalité, le transport, en termes de l'empreinte carbone totale de l'aliment, c'est pas grand-chose. La majorité de l'impact, elle provient de la production et non pas du transport. Donc, ce qui est intéressant de regarder, c'est davantage les systèmes de production, autant que faire se peut, plutôt que de se baser. En fait, le mode de transport qui a le plus d'impact, si on veut regarder juste les modes de transport, celui qui a le plus d'impact, c'est le camion. Ce n'est pas l'avion, ce n'est pas le bateau, c'est le camion. Parce que il roule beaucoup, donc il émet beaucoup de gaz à effet de serre. Donc c'est le camion le pire. Donc même l'avion, a priori, est mieux parce que comparativement, en fait, les émissions rapportées au tonnage transporté et au kilométrage sont mieux pour l'avion. Voilà. Je pensais pas, franchement. Mais toujours est-il que ça représente un tout petit bout. Et la majorité, c'est sur la production. Et donc, en fait, ce qui va être beaucoup plus intéressant, plutôt que se focaliser sur est-ce que le produit, il est local ou pas local, c'est d'essayer de regarder quel est le système de production. Alors, on ne peut pas rentrer dans... on ne peut pas aller toquer à la porte des grandes industries et leur demander c'est quoi. Mais c'est là où on peut essayer de regarder tout ce qui va être les labels, de regarder peut-être quelle est la politique en fait du pays où ça a été produit? Qu'est-ce qu'on en sait globalement, par exemple? Est-ce que c'est un pays qui a plutôt tendance à être sur des énergies fossiles ou pas? Est-ce que c'est un pays qui a pris des mesures pour limiter la déforestation? Ce genre de choses, ça nous dira pas si l'entreprise est effectivement dans cette démarche, mais ça donne des indications. C'est plutôt la production. Effectivement, si on peut privilégier des producteurs locaux qu'on connaît, qui font leur truc dans leur coin, mais go, enfin, au maximum, il y a la question de manger local, bah parce que déjà, ça fait vivre une économie locale, ça renforce la cohésion sociale, qu'on peut avoir davantage accès on a plus de transparence, de choses comme ça. Donc oui, si on peut manger local, c'est top. Mais si on ne peut pas, parce qu'il y a certains produits, bah voilà, les bananes, ça ne pousse pas en métropole. L'huile, les noix de cajou, ça ne pousse pas en métropole, etc. Et oui, donc on peut avoir, enfin la noix de coco, tout ça, on peut avoir envie d'en prendre ailleurs. Donc là, ce qui va être intéressant de regarder, c'est plutôt, oui, les labels, les pays de production, éventuellement, si on peut se renseigner un petit peu, voir si les marques, elles sont transparentes sur l'origine, si sur leur site internet, est-ce que par exemple, elles ont un bilan de RSE? Bon, ça peut être du gros bullshit, hein, aussi le bilan de RSE, mais s'il y a une marque qui le met, ça montre, on peut se dire, bah, il y a une démarche, et puis derrière, si toi, tu as envie d'aller la questionner, tu peux la questionner, il y a plus de transparence. Donc ça peut être pas mal. Après, les petites marques n'ont pas forcément les moyens de publier ça, mais elles sont des fois peut-être plus accessibles en termes de chat, donc de leur envoyer un message, de les appeler, si on a vraiment envie de savoir, ça peut être quelque chose de faisable. Faut essayer d'avoir le plus d'informations possible, sauf que c'est très chronophage, et c'est pour ça que les labels sont quelque chose d'intéressant pour le coup. Mais si on parle des labels, ils se valent pas tous. Ça peut être une très bonne aide, mais ils se valent pas tous. Il y a un excellent rapport de Greenpeace et du WWF qui est sorti. C'est un rapport qui fait quasiment 60 pages, qui est très complet. Et ils ont aussi un site internet où on peut retrouver du coup les résultats, où ils ont analysé les principales démarches de labellisation en France, métropole, en les classant. Et donc ils ont ressorti trois grandes catégories. Il y a les démarches qui sont basées sur le socle commun de l'agriculture biologique. Il y a les démarches basées sur la certification environnementale. Et il y a celles qui sont, on va dire, filière par filière. Donc dans celles basées sur l'agriculture biologique, bah, il y a le logo qui est AB, il va y avoir Déméter, Nature et Progrès, et c'était le dernier, c'était Bioéquitable en France. Ça, c'est les quatre grands. Ensuite, dans les labels, on va dire basés sur la certification environnementale, il y a celui qu'on appelle la haute valeur environnementale, HVE, il y a Agri Confiance et zéro résidu de pesticides. Et ensuite, dans ce filière par filière, ça veut dire que là, bah, ils sont définis, quoi. Il y a pas, ça englobe pas tout. Il va y avoir Bleu Blanc Cœur, l'AOP, l'IGP, l'AOC, la STG, et c'est qui le patron? Et donc, ce qui a été montré dans cette étude, c'est que ceux qui ont le plus d'impact dans beaucoup de domaines, ils ont analysé ça sur 14 domaines différents, ce sont ceux qui ont le socle de l'agriculture biologique. Ceux qui ont le moins d'impact, en gros le plus de, pas dire de greenwashing, parce que c'est pas forcément voulu, je pense peut-être pour certains, c'est ceux qui sont basés sur la certification environnementale. Eux, il y a très peu d'impact prouvé. Et en ce qui concerne ce filière par filière, bah là, c'est vraiment un peu quand même dépendant des filières. Mais Bleu Blanc Cœur a l'air d'être pas trop trop mal là-dedans. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'informations au niveau des labels, franchement, cette publication, elle est hyper intéressante. Ça vaut le coup d'aller y jeter un œil parce que voilà, le label est quelque chose qui peut être qui est décrié, mais qui peut être en fait, s'il est bien utilisé, s'il est bien encadré, si on comprend, il peut être hyper utile et vraiment aider dans les choix parce qu'on n'a pas tous le temps de passer 10 heures à essayer de comprendre quel produit choisir, quoi.
Ouais, puis
Et
disons
regarder
que
la liste des ingrédients.
voilà, il y a des labels qui sont des vrais labels, avec des vrais
Oui.
certificats, des vrais carnets. C'est
Oui.
pas comme le truc élu produit de l'année où les adhérents payent et puis ils payent pour être élu produit de l'année. Hein. C'est pas, on n'est pas là-dedans. Voilà, on est dans des labels, mais c'est vrai que ce qui est intéressant quand même, parce que tu vois, pendant que tu t'expliquais ça, j'ai regardé, et alors sur un rapport de l'ADEME que j'ai trouvé rapidement, disait que le transport c'est 19% du
Ouais, moi
poids de.
j'avais 11.
Tu vois, dans un aliment, tu vois. Alors, selon les cas, tu vois, c'est là où il y a des variations, on va dire, entre 20, même si c'était
En
20%,
fait,
on va dire qu'il reste beaucoup quand même à côté, qui viennent de la
et
production
en
elle-même,
fait,
quoi.
ça s'explique. Par exemple, pour les fruits et légumes, on va plus se rapprocher de 20%, alors que pour la viande, on va plus se rapporter de 6%. Tout simplement, c'est pas que les fruits et légumes émettent plus de gaz à effet de serre dans le transport que la viande. C'est juste que, en fait, faut imaginer ça comme un camembert, où on a des proportions. Et en fait, la proportion de gaz à effet de serre émis par la production dans la viande, elle est beaucoup plus grande que celle émise pour les fruits et légumes. Donc c'est vraiment, il faut regarder ça
Ouais.
relativement aux autres impacts. On n'est pas en train de comparer. Là, on est en train de comparer au sein d'un même groupe d'aliments qu'est-ce qui émet le plus d'impact et on ne compare pas entre deux groupes, en fait.
Ouais. C'est pour ça que finalement, dans le transfert de la viande, le transport ne pèse pas lourd, parce que la production de
Parce
viande au
que, ouais.
global pèse excessivement lourd, alors que dans la production de tomates bio, on va dire, le transport va peser plus lourd, parce que la production en elle-même devrait peser moins lourd. Mais là, on revient sur une question de, tu disais, sur
Oui.
les modes de production. Moi, j'aime bien, c'est une grande question qu'on a avec ma fille, parce que ma fille, elle a 6 ans, et hier encore, elle m'a posé la question, elle m'a dit, alors à midi, chez papy, mamie, on a mangé ça. Cette saison, c'est pas de saison. Moi, je crois pas que ce soit vraiment de saison, ce qu'on a mangé. Et donc, oui, d'accord, et tout. Elle me dit, il faudrait pas qu'on mange des trucs de saison, plutôt. Pour la planète, ça serait pas mieux. Et alors, là, après, on est arrivé sur des questions surgelées. Est-ce qu'il était surgelé?
Oui.
D'où il venait? Pourquoi est-ce qu'au marché, l'hiver, on va trouver des haricots qui viennent du Maroc? Et quel est le poids, tu vois, de leur transport et tout? Mais c'est vrai que toutes ces questions-là, quand on les met les unes au-dessus des autres, moi et ma fille, on a une espèce de logique et de dire, on va plutôt essayer de consommer le plus de saison et essayer de consommer le plus local possible. En tout cas, ça va être à peu près la logique du truc. Mais nous, on est en Auvergne, tu vois, on est en plein milieu. Alors toi, à La Réunion, il y a tellement de trucs qui doivent être importés pour que vous arriviez à manger que c'est...
Franchement, en termes de fruits et légumes, on n'est pas trop
Ouais,
mal
en fruits
lotis,
et
hein.
légumes. Mais c'est vrai que, tu vois, c'est dans les lectures que j'avais, etc. Tu vois, par exemple, des fois, on diabolise l'Espagne. Tu vois, et parce que j'ai assisté à une scène l'été dernier, on va en vacances dans le sud de la France, il y a quelqu'un qui voit et dit, oh, bah tiens, c'est des fraises, non pas des fraises, puisque c'est un truc espagnol. Et moi, je regardais avec un grand sourire, parce que quand tu es à Narbonne ou à Perpignan, l'Espagne, c'est à 100 bornes. C'est pas comme, tu vois, si tu es en Belgique et que tu fais traverser toute la France, et encore, on a vu l'histoire du transport, hein, qu'il faut peut-être mitiger. Donc,
Oui.
il y a des questions comme ça, des fois, où on a des espèces de
Ouais.
réflexes, de logique, en disant oui, mais en Espagne, ils produisent peut-être pas. Ils ont peut-être pas les mêmes labels bio, tu vois. Combien de fois j'ai entendu ça, ma mère dire ça, tu vois, sur ces histoires-là. Et j'ai l'impression qu'en fait, ça devient difficile de s'y retrouver, tu vois, l'histoire. C'est-à-dire que il n'y a pas de label,
Ouais.
grosso modo, tu vois, un truc qui te dirait ça, on est bon pour la planète, quoi.
En fait, ce qu'il faut avoir, c'est une idée des ordres de grandeur. Là, j'ai plus exactement, mais dans une de ces études, en fait, en ce qui concerne les produits animaux, le fait de diminuer, par exemple, il y a un jour par semaine où on enlève les produits animaux, on va diminuer notre impact autant que si on se mettait à manger la même quantité de produits animaux, etc., mais tout en local. C'est-à-dire qu'en fait, le fait juste de OK, tu manges pas local, mais t'enlèves une fois de la viande dans ta semaine, tu vas réduire autant que si tu te cassais le cul, désolé pour le truc, à tout vouloir sourcer local. Donc,
Ouais.
c'est des idées d'ordre de grandeur. Bien évidemment, je précise quand même que là, on parle d'impact environnemental de gaz à effet de serre, et c'est vrai qu'on n'a pas abordé la question des droits humains, des problématiques sociales, mais l'injustice liée aux impacts environnementaux, elle va toucher aussi d'autres pays. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment ces ordres de grandeur. C'est-à-dire que si moi, je veux, pour réduire l'impact environnemental de son alimentation, et donc aussi en réduisant l'impact environnemental, on parle aussi de santé publique, hein, et de sa santé à soi, bah, la première des choses à faire, c'est de réduire ma consommation de produits animaux, et principalement de viande rouge et de produits laitiers issus des ruminants. Ensuite, on peut tout à fait se dire, mais là, au contraire, si on se dit, bah, j'ai envie de faire ça, et en plus, j'ai envie de manger local et de reprendre les rythmes de saison, bah, go, faut y aller. Et puis d'autre part, les fruits et légumes de saison, en termes de nutrition, ils sont aussi, y a davantage de nutriments, parce que le transport, bah, mine de rien, faut refroidir, il y a quand même des pertes, hein, de nutriments, il y a des, y a plus, y a du gaspillage, des choses comme ça. Donc oui, il manger local, oui, mais dire oui, mais attends, toi, ok, tu manges pas de viande, mais tu vas chercher tes bananes à l'autre bout de la planète, ça, par contre, en termes d'ordre de grandeur, ça marche pas.
Ouais, mais c'est intéressant parce que c'est souvent un truc qu'on entend. De leur dire oui, et tu vois, je reviens sur l'histoire de l'avocat, parce que y a des... je trouve quand même que le monde est en train de se séparer, tu vois, y a une espèce de fracture de discussion, mais qui est beaucoup amplifiée par les réseaux sociaux, parce que j'ai beaucoup étudié ça, moi, parce que mon métier de départ, c'est les réseaux sociaux, et de dire que bah, finalement, on a deux camps qui n'arrivent plus à dialoguer. C'est-à-dire que quand il y en a un qui dit, moi je mange de la viande, et de toute façon ça fait 3 millions d'années qu'on mange de la viande, et c'est grâce à la viande que notre cerveau a grossi, ce qui est une réalité scientifique, hein, qui a été avérée, historique en tout cas, et que de l'autre côté il y a quelqu'un qui dit, oui mais arrête de manger de la viande et tout, et l'autre va lui répondre, ouais mais toi tu manges un avocat qui a fait tour de la planète, et il est cultivé par je ne sais pas qui, il n'est pas bon pour la planète, etc. Et en fait, il n'y a pas de dialogue, en fait. Il n'y a pas de débat dans cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il y en a un qui dit, tu manges de la viande, c'est mal, et l'autre dit, mais tu manges un avocat, mais c'est nul aussi. Et t'en manges tous les jours. Alors, c'est pour ça, tu vois, que c'est intéressant de remettre ces espèces d'ordre de grandeur. C'est-à-dire que tu es en train de me dire que si j'arrête de manger un peu de viande, finalement, ça a beaucoup plus d'impact que si je fais venir un avocat de l'autre bout du monde.
Oui, globalement, oui.
D'accord.
Ça a plus d'impact. C'est intéressant de d'avoir ça en tête. Et quand on veut avoir des débats sur ce genre de choses, en fait, il faut pouvoir aussi avoir un minimum de connaissances. De dire l'homme mange la viande depuis des millions d'années, oui, c'est vrai. Maintenant, cette personne qui dit ça, elle parle de l'aliment viande. Elle parle pas de la quantité.
Ouais.
Et regardez la quantité qu'on mange aujourd'hui. Je veux dire, la quantité qu'on mange aujourd'hui, c'est par rapport à l'histoire de l'humanité. C'est extrêmement récent, il y a eu un boom. Enfin, j'ai pas de chiffres en tête, mais avant, la viande, même à l'époque, moi, j'en ai parlé avec ma grand-mère, et tout ça, et je pense qu'il doit y avoir des études là-dessus, j'ai pas regardé, mais la viande et les produits animaux restaient quelque chose de un luxe, en fait. C'était pas quelque chose qu'on mangeait tous les jours. Donc oui, on en mangeait, mais on n'en mangeait pas autant que maintenant, en fait. Et encore, et là, on parle de nous, pays occidentaux. On parle de notre culture, mais les produits laitiers, typiquement, bah, dans les pays asiatiques, il y en a très très peu. À La Réunion, enfin moi, pourtant on est administrativement en France, mais à La Réunion, la cuisine, on va dire traditionnelle de base, il y a quand même très peu de produits laitiers dedans. Il y a très peu de fromage. Bon, on n'a pas de raclette, hein. Des choses comme ça. Donc c'est aussi, il faut voir que c'est culturel. Quand on regarde, là, je me suis amusée, j'ai pris des bouquins de cuisine indienne. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas des plats traditionnels ou dans lesquels ils sont pas du tout à base de viande. Donc, il faut pas oublier qu'il y a une notion culturelle dans notre manière de s'alimenter. Il n'y a pas que, enfin, je veux dire, il y a plusieurs types d'alimentation. Je suis pas sûre que quand on va, voilà, quand on va au Japon pour y avoir un peu été, bah eux, ouais, il y a là-bas pour trouver du lait. Il n'y en a pas. Enfin, très compliqué. Donc de dire on mange de la viande depuis très longtemps, oui. Maintenant, regardez dans quelles conditions, à quelle fréquence, quel type de viande, etc.
Il y a un livre qui est très intéressant pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est Sapiens, où il explique assez bien. Et puis, alors ceux qui sont un peu fainéants comme moi, parce que quand on voit le livre un peu épais, il y a la BD Sapiens qui explique bien. Et dans le premier tome, c'est super bien expliqué parce que tu suis les petits personnages, les chercheurs et tout qui vont à droite à gauche. C'est super bien expliqué justement que l'homme au départ mangeait de la viande, mais il était d'abord un charognard. C'est-à-dire que comme il n'était pas capable de tuer les bestioles, il mangeait d'abord les bêtes mortes qu'il avait autour de lui. Donc, ce qui veut dire qu'on n'en mangeait pas tant que ça, parce qu'il y a pas, il, on n'allait pas au supermarché pour en trouver. Donc, ça dépendait vraiment de quand il en trouvait, de ce qu'il pouvait manger. Qu'ensuite, effectivement, ben, il est devenu de plus en plus fort, l'homme, pour chasser. Et d'ailleurs, que le grand truc, c'est que partout où l'homme est arrivé, les animaux ont disparu. Parce qu'à force de les manger, ils ont tous disparu. Et ça, c'est un truc, on lui a reproché hein, à l'auteur en disant, oui, mais lui, il est vegan, donc c'est une espèce de plaidoyer là-dessus. Mais sauf que, en fait, il
Ouais, mais
explique bien.
c'est pas faux.
Voilà, c'est pas faux. Et c'est vrai que historiquement, il y a des traces qui montrent ça, qui montrent aussi que bah, petit à petit, en fait, on a domestiqué des animaux pour s'en servir comme outil, mais aussi pour s'en servir pour les manger. Et on arrive sur les notions d'élevage et sur les notions de tout ce qui est l'agriculture aussi, qui montrent que finalement, l'argument, il y a 1 million d'années, on mangeait déjà de la viande. Oui, mais il y a 1 million d'années, on n'élevait pas la viande pour la manger. Parce que à l'époque, de toute façon, on ne savait pas le faire. Voilà. Donc, la consommation
Oui,
de viande était totalement différente, l'éducation, la manière de consommer était totalement différente.
puis c'est pas qu'une question de on est plus d'êtres humains sur Terre, c'est que non, la consommation par habitant a augmenté aussi dans le monde occidental, dans le monde dans les pays moins développés, je ne sais pas, mais j'avais vu des choses comme quoi la consommation était en augmentation aussi, mais là c'est la consommation par personne, donc c'est pas juste. Oui, c'est sûr que si on passe de 800 millions à 7 milliards d'êtres humains, forcément ça augmente, mais en global. Mais c'est pas. Enfin là, c'est la consommation par personne qui augmente.
Et puis il y a quelques millions d'années, on mangeait des insectes aussi. On va y revenir aux insectes, hein. Un jour, il faut que je fasse un épisode sur les insectes, sur les élevages d'insectes, etc.
Mais c'est.
Je sais pas. Mais
Oui.
toi, si t'es vegan, tu peux pas manger d'insectes.
Non, j'en mange pas. J'en ai mangé un moment. J'en avais mangé. Non, c'est pas. Enfin, quand on passe le premier a priori, en fait, ça va. Hein.
Ouais. Moi, j'en ai mangé qui ressemblaient à des petites, tu sais, des
Mais.
petites cacahuètes, toutes petites. Si tu,
Ouais.
franchement, on l'a pas dit. Hein, on l'a pas dit. On a sorti le paquet après, parce que j'avais eu 2, 3 paquets comme ça sur une foire. On l'a pas dit. Les gens ont trouvé ça bon. Ça avait goût de paprika. Et après, tu leur dis, ouais, mais c'était des vers. Ah bon? Ah,
Ouais.
ces trucs. Mais ce qui montre aussi, et vraiment, parce que là, il y a un truc aussi qui est, tu parlais des animaux et qui est vraiment notre relation à l'animal aussi. Moi, ma nièce fait du cheval. Tu feras jamais manger un bout de cheval. Et quand j'étais petit,
Mais
j'avais
c'est
des
ça.
boucheries chevalines. J'en avais une dans la rue. On trouvait du cheval quasiment un peu partout. Il y a des abats aussi. On voit que les consommations ont beaucoup évolué. Enfin, on voit aussi qu'il y a plein de choses qui évoluent, que le statut de l'animal dans les différents pays change et que c'est très culturel aussi la manière de manger, comment
Oui.
on évolue et tout. Que c'est pas une question qui est. Moi, je trouve que les gens qui sont et c'est pour ça que c'est bien de mettre de la nuance comme tu le fais, d'essayer de remettre un peu des étages et tout parce que. Il y a des espèces d'oppositions, comme je disais. Moi, j'aime pas les oppositions parce que c'est jamais tout blanc ou tout noir. Tu vois, c'est pour ça que
C'est ça, en fait, faut pas être dogmatique dans un truc. Enfin, en fait, on a besoin de base, l'alimentation, c'est pas fait. Enfin, l'alimentation, c'est ce qui permet d'apporter de l'énergie et les éléments nécessaires à un organisme pour fonctionner. Donc, après, le comment on apporte ces éléments, avec quoi on les apporte, bah, ça, c'est très varié. Il faut pas être. Il faut varier aussi. Enfin, faut pas être dans les excès, faut pas être dans les dogmes et des habitudes, ça se change en fait. Et c'est pas parce qu'on change quelque chose, par exemple, c'est pas parce qu'on devient végétarien qu'on est frustré, en fait. Ça, c'est quelque chose que souvent on a tendance à percevoir. Enfin, pour. Quand on est face à des gens, notamment, moi, je vois en trail parmi des gens que je côtoie, c'est un peu ce truc, bah oui, mais si tu manges plus de viande, t'as des plaisirs qui s'en vont et tout. Ça peut être vrai au début, parce qu'au début, on se dit, bah oui, enfin moi, je vais pas dire que j'aime pas la viande ou le poisson, j'aime ça. J'ai choisi de ne plus en manger. Mais par contre, si on est un minimum curieux, qu'on a envie de faire des petits tests et tout, très très vite, pas frustré, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Et je pense que faut essayer de changer. Je vois faire un peu plus le lien avec les trails et avec les événements, ce qu'on trouve sur les ravitaux aujourd'hui. Dans la grande majorité des événements, c'est absolument pas compatible avec des questions de durabilité. Et on va retrouver souvent ces aliments. Moi, j'ai fait quelques. J'aime bien être bénévole sur les ravitaux. C'est assez sympa. Et c'est vrai que quand on demande ben, pourquoi vous avez tel type d'aliments et tout, ce qui revient, c'est ben, si on l'a pas, les coureurs vont pas être contents. Voilà. Oui, mais d'un autre côté, je comprends, mais effectivement, faut pas dire, par exemple, il y aura du coca et puis au final, on n'en met pas. Mais si on ne le dit pas ou qu'on essaie de changer ou qu'on essaye de co-construire ça avec les coureurs, je pense que ça peut tout à fait marcher. De regarder, de réfléchir au conditionnement, à quel type d'aliment on va choisir. Et ça, moi, c'était un travail que j'avais fait, de voir, bah, c'est tout à fait faisable de faire un tableau. Moi, j'en ai fait un, j'en avais fait un pour la VBX, un tableau où on met, bon, bah, ok, j'ai tel type d'aliment que j'ai envie d'avoir que. Donc j'ai en fait déjà à partir de pour être sur un pour avancer, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de glucides, j'ai besoin de glucides qui vont être sucrés, de glucides qui vont être salés, j'ai besoin de boissons, j'ai besoin de protéines et j'ai besoin quand même d'un peu de lipides. OK. Bon, ensuite mettre dans des dans une catégorie. D'accord, bah aujourd'hui, si je dois trier tous les aliments que j'ai dans mon ravitaillement, dans quelle catégorie je les mets? Hop, je les trie. Après, de regarder un petit peu, il y a des sites qui permettent ça. Ben, quel est leur impact environnemental? Est-ce que je pourrais pas trouver quelque chose qui est mieux? Et puis après, on peut aller s'inspirer sur plein d'autres endroits. On peut demander à sa communauté de coureurs. On peut aller voir des gens, par exemple, des gens qui font du trail, leur demander conseil aussi. Il y a plein de gens qui ont des super bons conseils là-dessus. Et regarder, ben, quelles alternatives on peut avoir, en fait. Et c'est pas compliqué, hein. Et des fois, même pour un même produit, juste simplement, typiquement, on veut un gâteau. On pourrait prendre un 4 quarts qui va être fait avec du beurre ou un 4 quarts qui va être fait avec de l'huile. Bah moi, j'aurais tendance à dire de privilégier celui qui est fait avec l'huile parce qu'en termes d'impact environnemental, il sera moindre. Donc, ça va être le même gâteau, c'est juste les ingrédients sont différents. Et je veux dire, de savoir si c'est une bonne huile ou pas, je suis désolée, mais quand on est en trail, je crois qu'on a. C'est pas de ça dont on... C'est pas ça qu'on cherche. Voilà. Et puis, juste, si on veut acheter, j'en sais rien, un brownie, ben, on a deux marques de brownie. Il y en a une qui indique d'où proviennent les ingrédients et l'autre qui dit pas. Ben, on choisit celle qui l'indique, par exemple. Ça peut être des trucs tout bêtes. Et après, pour tout ce qui est la viande, ça peut être de dire, ben, est-ce qu'on a vraiment besoin de viande sur un trail? Moi, j'avais eu le cas à la VVX. Ça m'avait foutu, mais hors de moi, les tuques. J'arrive à un ravitaillement, je voulais du sucre, du sel, pardon. Je prends un tuc, je mange le tuc, je m'aperçois que c'était des tucs au jambon. Pourquoi? Pourquoi ne pas prendre des tucs tout simples? Voilà, c'est des trucs, en fait, c'est des trucs tout bêtes comme ça. Par exemple, les chips, je sais pas, les espèces là de curly au fromage. Je suis pas sûre que sur un trail, tu peux prendre des curly normaux, en fait. Hein. Pas obligé d'avoir avec le fromage ou. En fait, ça peut être des petits ajustements comme ça. Hein. Si on parle, bon, le fromage, c'est pareil, c'est un très très gros impact aussi. Voilà, déjà de savoir est-ce que le fromage il est vraiment consommé, et puis bah, peut-être choisir d'en mettre moins, mais d'aller chercher plus des producteurs locaux. Il va y avoir aussi bah, tout ce qui est, on n'a peut-être pas besoin sur des ravitaillements. De proposer, parce que ça, moi, je l'ai beaucoup vu ici, les trails qui achètent les petites barres, la granny ou je sais pas quoi, en emballage individuel, qu'on ouvre et qu'on dépiote pour mettre pour les coureurs. Bon, il n'y a peut-être pas besoin enfin, d'avoir des barres de céréales en truc individuel, et à la place, on peut prendre un gâteau qui va être en plus gros conditionnement ou des choses comme ça.
Mais c'est intéressant l'histoire du conditionnement d'ailleurs parce que ça me fait penser au gel. À tous les. Parce que.
Oui.
Enfin, il y a un truc parce que, en fait, pour tout dire, tout à l'heure, je cherchais une information et je cherchais l'impact carbone de la bière. Alors, bon, dans un épisode récent, j'ai dit que quand même la bière de récup était un argument marketing un peu
Oui,
foireux.
j'ai écouté.
Hein, donc, ça, alors.
Oui.
Personne n'a trop réagi, j'avoue, tu vois, je dis bon, ils vont mal réagir. Mais alors, quand tu vois, enfin attends, un demi de bière, c'est 74 litres d'eau. Bon, déjà, ça calme le truc.
Ouais.
J'avais vu un reportage qui expliquait qu'une ville comme Mexico, qui était déjà manquée d'eau, était en train d'être privée d'eau parce qu'il fallait fabriquer de la bière et qu'on prenait l'eau dans le fleuve, qui était juste avant. Donc déjà, il y a un truc comme ça. Mais après, ils rajoutaient, eux, ce qui est intéressant dans l'analyse, ils rajoutaient les canettes, les bouteilles. Tu vois, bon, il y a le transport et tout, mais le transport, on dit que quel que soit l'aliment, bon, il y a du transport. Par contre, c'est vrai que tu disais, les petites barres céréales en individuel, tous ces trucs-là. Et on en revient sur cette question-là, par exemple, de dire, bah oui, mais les gels, finalement, il y a presque autant de plastoc que de produits à l'intérieur. En
Oui.
quantité. Alors, je sais pas s'il y a eu le temps d'avoir des études sur l'impact, combien ça consomme dessus ou pas, mais il y a une question qui peut se poser quand même et que des marques se posent.
Ouais, après, c'est là, c'est le souci de la pollution. Plutôt, on est moins peut-être sur les gaz à effet de serre, je sais pas, mais c'est clair qu'on va être davantage sur des questions de pollution parce que c'est. Ben, soit on peut perdre le petit bouchon, je pense surtout les petits bouchons de gel là qu'on voit partout après les courses, mais puis après ben, c'est des emballages qui sont jetés, donc il faut avoir le traitement des déchets parce que c'est pas recyclable, et le traitement des déchets ben, ça pollue aussi, c'est des puis en fait c'est du enfin, le pétrole c'est quand même une matière non renouvelable, donc c'est quelque chose qui en fait une fois qu'il est détruit il est perdu, et c'est un peu bête de perdre de la matière comme ça alors que c'est quelque chose qu'on sait être en voie de raréfaction. Donc il y a ça, et c'est vrai que donc les gels, j'avoue que ouais, je vois il y a de plus en plus de marques effectivement qui essayent de proposer des emballages plus réduits ou des recharges
Ou des
aussi.
recharges ou des packs, ouais.
Donc ça c'est assez intéressant. Et puis après est-ce que on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on peut pas remplacer ça par des produits plus naturels ou alors essayer de le faire soi-même? Bah, je pense tu vois au miel par exemple, du miel, enfin le gel en fait, qu'est-ce qu'on va chercher dans le gel, qu'est-ce qu'on cherche en fait, de quoi on a besoin quand on prend un gel, et puis pour plus là tout ce qui est les barres et tout, très sincèrement les faire soi-même c'est pas compliqué et ça coûte beaucoup beaucoup moins cher, donc effectivement ça prend un petit peu de temps. Mais très sincèrement, c'est quelque chose. En fait, je pense que la problématique, elle n'est pas tellement du temps, elle est plutôt d'avoir l'idée de trouver les recettes, quoi. Parce qu'une fois qu'on connaît la recette, franchement, on n'a plus envie d'en acheter parce qu'on se voit à quel point on se fait arnaquer, hein.
Ouais. Alors, tu sais, pour Civil Run 7, dans les archives du podcast, j'ai fait un épisode sur les 5 livres sur l'alimentation sportive. Il y en a un, il y a un qui présente, c'est un livre de Christophe Berg, qui présente des recettes de bars et de compotes et de petits déjeuners et tout, qui sont en plus sont vegan. Donc, tu vois, alors là, sur l'impact, mais il faut ne pas oublier qu'en fait, il est nordique. Donc, le côté dimension, produits locaux, de saison, comment on carbure avec des bons aliments, est vraiment pris en compte. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est pour ça que je l'ai mis dans la sélection de livres. Donc, il y a un épisode qui peut être très vieux, hein, qui est sur le mois autour du mois de février, mars, ou comme ça, j'ai pu diffuser ça. Et où justement, on trouve des recettes. Mais c'est vrai que un truc qui pourrait se poser comme question, c'est est-ce qu'on pourrait pas se balader avec nos gourdes de compote rechargeables qu'on fait, tu vois? Parce que moi, pour ma
Oui.
fille, on en faisait à l'époque, on avait même une petite machine qui les remplissait. Un jour, je lui ai dit, je vais te piquer des trucs à toi. Et on en trouve en magasin bio des gourdes rechargeables dans lesquelles on pourrait faire sa propre compote, mettre ses petits mélanges, etc.
Ouais.
Donc, à la limite.
Non, je trouve que l'avantage des barres, ce qui peut être intéressant, enfin en tout cas moi la façon dont je les utilise, parce que j'en achète de temps en temps, mais j'achète les seules que je vais acheter, c'est les Clif en fait, les grosses, tout simplement parce que c'est des barres qui vont se conserver très longtemps et que j'aime bien en avoir, mais quand je dis j'en achète, c'est j'en achète par exemple un pack et je vais la garder peut-être 3-4 ans. Donc en 3-4 ans, ça se périme pas. La date, elle passe, mais ça c'est toujours mangeable, quoi. Et je les prends juste toujours au cas où avec moi quand je pars, histoire de me dire j'ai quelque chose. Mais dans les faits, oula, dans les faits en fait, je vais pas forcément la manger. Mais effectivement, pour cet aspect conservation longue durée, ça peut être intéressant. Si on part sur un trek de plusieurs jours, oui, là ça a un intérêt. Et sinon, je vais en acheter bah, typiquement là pour la VVX. Je prends des barres protéinée végétale où je sais qu'il y a 10 grammes de protéines par barre. Là, c'est tout simplement pour être sûr d'avoir un apport protéique suffisant toutes les 3 heures. toutes les quatre, entre toutes les 3 et toutes les 5 heures. Donc là, c'est vraiment pour des choses spécifiques. Et du coup, parce que là, par exemple, si moi je fais mes barres moi-même, à moins de faire le calcul de peser, de mettre etc., c'est compliqué de savoir exactement combien il y a. Et quand on est sur un effort très spécifique, je pense que ça peut être utile. Mais maintenant, comme deal, là, sur la VVX, je vais peut-être manger, allez, on va dire peut-être, je sais pas, entre 3 et peut-être 3 barres, 3 fois 10 grammes de protéines, suivant le temps que je mets. Mais tout le reste de mon alimentation, je vais le faire, par exemple, ce que j'ai trouvé qui marchait bien, c'est les dattes. Ça va être un truc que j'aime bien, c'est les petits pretzels, là, les petits bretzels secs. Je mange ça, je vais prendre du pain. Je pense que je vais me faire quelques boulettes à base de pâte de dattes ou de pâte de figues. Et puis après, ça va être quelques gâteaux en salé. En salé, ouais, c'est plus principalement du pain ou des chips. Mais voilà, je vais pas forcément, je vais pas manger de barre spécifiquement. Je vais prendre avec moi une barre Clif parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui est conditionné où je sais que ça fuit pas et c'est quand même un gros apport calorique. Donc là, c'est juste une sécurité, mais je le vois plus comme une sécurité. Et le reste, c'est. Ouais, on peut prendre un peu de carrés de chocolat, des trucs comme ça qui sont moins transformés et qu'on peut transporter assez facilement et qui vont apporter en fait les mêmes choses. Je sais pas exactement. Enfin après, voilà, moi j'ai jamais fait d'ultra, j'ai jamais fait plus de. Le maximum que j'ai fait, c'était 100 km en marche. J'ai pas été au-delà. Mais je suis pas convaincue que des trucs hyper sophistiqués avec tant de vitamines de j'ai jamais entendu le nom et X milligrammes de taurine ou de machin, je suis pas persuadée que ce soit indispensable. Après, ça peut être un effet placebo hein, qui rassure. Mais je pense qu'on peut tout à fait éviter de consommer 150 000 barres, quoi. Ça demande un peu d'entraînement, ça demande peut-être un peu le temps de les faire. On peut garder si on sait qu'on a un petit coup de mou à un moment, enfin, au même titre que des fois, je sais pas, on va se manger de la glace au chocolat. Oui, on peut dire, tiens, j'aime bien cette barre-là, je vais en prendre une, mais carburer que à ça, je pense que c'est pas une nécessité, hein. Surtout quand c'est emballé en individuel. Très bien que les marques elles fassent des emballages plus gros parce que le truc qui est, enfin, le truc qui est tout bête parce qu'on peut se dire comment je le transporte bah, en fait on prend un sac Ziploc enfin les petits sacs là qui se referment en plastique les sacs congélation puis ça c'est réutilisable donc il suffit juste de les laver et transporter des enfin des barres transportées là-dedans qu'on fait soi-même ça marcherait très bien enfin, ouais, des fois elles sont un petit peu écrasées mais, toute façon ça finit dans l'estomac écrasé.
C'est pas très grave. Mais c'est vrai que ça fait partie en fait. Moi, tu vois, j'ai pas vu d'études spécifiques et tout sur les conditionnements et tout. Toi, l'autre jour, dans l'autre épisode, on parlait de des baskets, des chaussures, des semelles qui s'usent et tout. Où là, on voit qu'il y a des analyses. Il y a des analyses aussi sur les tissus qu'on peut laisser, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné quand même. Il y a des courses hein, quand même parce que Run for Planet avait fait des trucs, avait un peu communiqué sur le sujet, mais qui sont plus en fait aussi sur le fait que ben on en trouve par terre, que c'est rejeté, que les gens ne les ramassent pas, ou alors ils les font tomber par erreur, et puis parce qu'on en retrouve régulièrement et tout. Mais c'est vrai que quand on parle de ces histoires de plastique, quand on parle de ces histoires de pollution, de retraitement, etc. Voir tous ces petits gels alignés les uns à côté des autres dans les packs de coureurs, ça peut, en tout cas, moi, souvent, ça m'a posé question. Et je me dis, à limite, sur une course, parce que c'est là où on pourrait aussi avoir une démarche, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des gros consommateurs et des petits consommateurs, c'est-à-dire, il y en a certains qui vont prendre ça pour tous les entraînements, etc., puis d'autres juste pour les courses en cas de besoin, ou alors de temps en temps, comme tu
Oui.
disais, même si on sait que sur les courses, il faut répéter ce qu'on va manger le jour de la course et tout. C'est différent que si on fait chaque entraînement où on en prend systématiquement, systématiquement, systématiquement. Je pense qu'il y a des échelles aussi. Mais c'est vrai que quand même, si on y réfléchit un petit peu, ça paraît pas très logique. Il y a un moment, il y a un truc qui paraissait pas très logique.
Et puis, en fait, là, on parle beaucoup des déchets, des impacts visibles. Là, c'est ce qu'on voit. Mais il faut se dire que déjà, c'est des al les aliments qui sont emballés comme ça, c'est des aliments transformés. Donc, c'est des aliments qui ont subi des transformations. Et entre le produit, par exemple, si je prends, je sais pas, une barre d'avoine chocolat, j'en sais rien. En fait, entre l'avoine qui a poussé dans le champ Et l'avoine transformée qu'il y a là, il y a eu plein d'étapes de transport, de transformation. Et à chaque fois, une de ces étapes, bah, c'est des emballages, c'est des produits utilisés, c'est de l'eau utilisée, c'est potentiellement du froid, etc. Et pour produire l'emballage qui va être bah, le petit sachet plastique, mettons, bah, là aussi, il va y avoir l'extraction du pétrole, il va y avoir la transformation. Et en fait, à chaque étape, il y a du conditionnement, il y a des pertes. Il y a des déchets, il y a de la pollution, etc. Donc, si on peut essayer de réduire en fait au maximum le nombre d'étapes depuis l'aliment brut, et que ce soit en termes de transformation des aliments ou en termes d'emballage, et bah, en fait, ça va être tout bénéfique. Il faut pas. Effectivement, on peut se dire oui, mais un gel, c'est tout petit. Oui, mais pour produire cet emballage, il a fallu. Enfin, il y a eu les encres pour colorer, il y a eu le plastique. Il a fallu transporter ton plastique dans des pellettes, etc. Enfin, il a fallu transporter le plastique sous forme de pellettes. Pour produire ton gel qui était dedans, bah, il a fallu produire les molécules qui ont servi à faire telle vitamine, etc. Donc, vraiment, faut pas juste voir l'impact, il y a notre petit sachet, c'est qu'il y a toute la chaîne derrière, et plus c'est transformé, plus c'est emballé, plus il y a eu aussi de déchets de transformation et de pollution en amont.
Et tu vois, dans mes recherches, dans mes notes, j'ai vu un truc qui s'appelle le gel pod. C'est un gel dont l'enveloppe est comestible. En fait, c'est que ça fond dans la
Ah ouais,
bouche.
un peu en algues là. Ils font un peu comme
Bah,
les bulles d'eau qui avaient été faites.
alors, je sais pas avec quoi ils le font, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient partenaires de l'EcoTrail à Paris.
Ok.
Bon, heureusement que Eco Trail il y a des choses dessus. Mais on en parlait parce qu'au sein du running aussi, j'avais croisé quelqu'un, tu sais, qui fait des tasses en silicone plutôt qu'en plastoc, qui se foutait un peu de la gueule, tu sais, des flasques. Et en me disant, mais regarde les flasques, elles sont toutes faites, c'est toutes les mêmes flasques qui sont toutes faites en Chine,
Oui.
etc. Et dis-moi, ma flasque à moi, elle est faite vers le Mont Ventoux. Alors j'ai perdu le nom de l'entreprise, mais c'était un gars qui était très sympathique et tout, et qui faisait des démonstrations en disant, bah, en plus, moi, c'est pas du plastoc, alors je n'ai plus la matière, je voudrais pas dire de bêtises, mais c'était du recyclé, il pouvait recycler, enfin il y avait tout un tas de trucs, toute une logique qui montrait que il y a des acteurs quand même qui réfléchissent un petit peu à ces notions-là, qui se posent des questions, comme on le disait sur le matériel, on voit que ces réflexions sont en cours, il y a plein d'éléments dans lesquels c'est en cours, mais c'est vrai que quand on y réfléchit bien, il faut considérer que le fait qu'on fasse une pratique sportive et le fait qu'il faut s'alimenter, manger plus, etc. On parle pas des déplacements pour aller faire des courses, hein, juste le fait de bouger plus, donc de manger plus pour être à l'équilibre, n'est pas sans impact sur la planète. Et qu'à partir de ce moment-là, si on veut avoir un peu une conviction ou pas écologique, mais qu'on veut s'en occuper d'une manière ou d'une autre, eh ben, ce qu'on va manger, il faudrait le sourcer, se demander ce qu'on
En
mange
fait,
au moins, quoi.
moi j'aime, enfin moi pour moi c'est, j'ai même envie peut-être d'être un peu plus radicale. C'est en mode on a le privilège en fait de choisir qu'on fait cette pratique. À un moment, on peut pas juste la faire et se dire mais j'ai que des privilèges et j'ai pas de devoirs. Et pour moi je suis là, bah oui, ok, tu veux faire du trail, d'accord, mais dans ce cas-là, bah, tu as aussi le devoir de faire davantage attention à ce que tu manges et à ce que tu fais, parce que faut pas oublier qu'il y a des gens qui souffrent des conséquences du réchauffement climatique, il y a des gens qui sont dans des situations de malnutrition, de dénutrition, qui ne peuvent pas manger à leur faim. Et nous, on est là à avoir le privilège de se dire, je fais un sport et je peux manger plus. J'ai fait le choix de, je fais un sport et du coup, je mange plus. Alors qu'il y a des gens qui ne mangent même pas à leur faim. Donc, à un moment, en fait, bah, faut prendre aussi nos responsabilités. C'est parce qu'on ne peut pas juste se dire, oui, bah, moi, j'en fais et je m'en fous. Bah, non, en fait, c'est pas juste. Et éthiquement, je trouve ça pas correct, en fait. C'est à un moment, bah, oui, tu veux faire du trail, mais je crois que c'était. C'est Camille Etienne qui dit ça et je trouve ça très vrai. C'est avec les privilèges viennent les responsabilités. Et je trouve ça très vrai. Et pour l'alimentation en trail, je pense qu'il faut voir qu'on a la chance de vivre dans un pays où on mange à notre faim, où on peut manger plus qu'à notre faim et plus qu'une personne normale de par notre activité. Donc en fait, c'est aussi à nous d'avoir cette responsabilité de faire les choix. Enfin, c'est même pas faire des choix, c'est juste, bah, si tu veux pouvoir continuer, il faut que tu fasses attention Et je sais pas, je pense que c'est aussi une responsabilité morale à avoir chacun de. Au-delà de se dire, aujourd'hui, il n'y a pas d'interdiction, on n'est pas là en train de nous dire, attends, si tu fais pas gaffe à l'impact de ton alimentation sur l'environnement et sur les hommes, hein, parce que ça a des impacts sur les hommes aussi, enfin, qui font partie de l'environnement, soi-disant, passant. Mais on est, il n'y a pas de loi qui dit aujourd'hui, bah, si tu fais du sport et qu'en même temps tu fais pas attention, bah, t'as plus le droit de faire de sport parce que tout ça. Il n'y a pas de loi qui dit ça, mais est-ce que juste nous, moralement, on pourrait pas. Enfin, est-ce qu'on est OK avec ça, moralement? Pas se dire, mais moi j'ai ce privilège, il y a des gens qui ne peuvent pas bouffer, et moi je suis là à avoir le droit de me dire je m'en fous et je fais ce que je veux. Je sais pas, enfin moi ça me gêne en tout cas, en fait.
Mais c'est vrai que c'est une dimension qui est pas, c'est une dimension qui est pas vraiment prise en fait pour l'instant. Mais je pense qu'il va finir par être prise un peu. Tu vois, dans mes notes, j'avais Xavier Thévenard qui est assez engagé sur le truc, etc. et tout, qui a été interviewé par, tu vois, par Chiloé, des gens comme ça, et qui finalement sur l'alimentation, ils en parlent très peu, parce que c'est vrai que quand on parle de trail, on pense à l'avion, on pense aux gros sponsors, on parle des baskets, on parle du déplacement des personnes, on parle de ce qu'on disait dans l'autre épisode sur le fait que on peut abîmer les chemins, enfin, il y a tout cet impact-là, mais c'est vrai que l'impact alimentaire du simple fait, enfin, du simple fait, du fait de manger, de bouger, de s'entraîner, puis de s'entraîner tous les jours, parce que c'est pas juste une course, en fait, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que c'est multiplié par un nombre de jours, alors si on parlerait pas en calories, mais si on dit je dépense 500 calories de plus par jour pour ma pratique sportive, multiplié par
Ah, sur
365,
un an, ça fait beaucoup, hein.
ça fait une quantité de calories qui est énorme. Si on avait un équivalent de. Mais ce qui est impossible à faire, en fait. Et je ne sais pas d'ailleurs sur le plan du calcul, tu sais, quand on calcule son empreinte écologique, tu sais, avec les simulateurs de carbone, de rejet, etc., combien on rejette. C'est vrai que ça serait intéressant d'arriver à estimer finalement, de se dire, bah, le sportif, hors matériel, etc., parce qu'on ne rajoute pas le matériel, on va enlever le matériel de côté aujourd'hui, rien que par l'alimentation,
Bah,
combien il génère en
après,
plus?
j'ai une estimation pour les grammes de CO2 équivalent, donc ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est tous les gaz à effet de serre, pour 2000 calories. Voilà. Donc, quand on est un gros mangeur de viande, ça émet 7000 grammes de CO2 équivalent. Quand on est un petit mangeur de viande, pour 2000 calories, toujours, ça émet 4500 grammes de CO2 équivalent. Quand on est végétarien, c'est 3800. Et quand on est végan, c'est 2900. Ça, c'est pour 2000 calories. Si on mange 4000 calories, pour quelqu'un qui va, mettons, s'entraîner beaucoup pour faire de l'ultra, ce qui n'est pas un chiffre aberrant,
Non.
bah déjà, on est deux fois, si on est un gros mangeur de viande, déjà, on est à 14 000, alors quelqu'un qui ne fait pas de sport, il est à 7 000. Et quelqu'un qui est, et même quelqu'un qui est végétarien, il est à 7 600, alors que quelqu'un qui, pareil, est végétarien, et en fait, à 7 600, il est déjà plus, le végétarien qui mange 4 000 calories, à 7 600, il est plus que le gros mangeur de viande qui fait pas de sport.
Ouais.
Voilà.
Ouais, je crois que ça parle.
Donc bon.
C'est ça. C'est-à-dire que bon après, on va toujours avoir les débats en fait en disant oui, mais
Oui.
est-ce qu'ils mangent pas des meilleures calories? Enfin, tout un tas de
Oui,
trucs.
il y a les histoires. Non, mais bien sûr, là, c'est un aspect, mais il y a le fait que, par exemple, bah, peut-être que la personne qui mange beaucoup de viande et qui est très sédentaire, bah, plus tard, elle aura des problèmes de santé qui font que ça va engendrer des coûts environnementaux et sociaux parce qu'il aura
Ouais.
besoin de médicaments et de choses comme ça, hein. On est d'accord, il faut penser. Là, on est focus sur quelque chose, mais il faut pas oublier que c'est systémique. Mais toujours est-il que, en ayant en compte que c'est systémique, moi, j'aurais tendance à dire que c'est mieux d'être végétarien et de manger deux fois plus. Que d'être sédentaire et d'être un gros mangeur de viande parce que bah, on est davantage dehors, donc on a davantage de contact avec la nature. On sait que pour la santé, c'est meilleur. Pour la sensibilisation à l'environnement, c'est meilleur. On comprend peut-être aussi mieux des problématiques sociales du fait que on est peut-être plus en contact avec d'autres gens, comme on est souvent dehors, etc. Donc, faut pas, ouais, faut élargir son champ de vision, mais c'est intéressant de voir quand même des chiffres et de pouvoir se rendre compte à quel point, oui, notre pratique, elle a un impact. Si tu veux pas, j'ai envie de dire, complètement. Par exemple, un gros mangeur de viande, enfin, par exemple, un sportif, s'il veut se dire, je veux pas que. Enfin, attends, je retrouve la phrase dans le bon ordre là. Un sportif qui pourrait se dire, oui, mais moi, mon activité sportive, dans 15 ans, en fait, je ne vais pas générer les coûts en CO2 et en perte de biodiversité et en pollution aux antibiotiques parce que je n'aurai pas besoin d'aller à l'hôpital. Mais si tu veux pas que les bénéfices y soient surpassés par les coûts, faut adapter aussi ton alimentation, ton matériel et tout ça, en fait. Il faut le voir dans toutes les dimensions. C'est pas noir ou blanc. Encore une fois, c'est une question d'équilibre entre différentes dimensions. Et on parle beaucoup. C'est vrai qu'on peut dire, ok, il y a l'aspect environnement, mais il y en a peut-être qui pensent que c'est pas important, que oui, c'est chiant avec l'environnement, d'accord, mais il n'y a pas que ça. Quand on dit environnement, on pense souvent à la nature. La nature en dehors de l'être humain. L'être humain fait partie de l'environnement. On voit beaucoup les 9 limites planétaires en termes d'environnement, mais en fait, en réalité, il y a aussi des normes sociales. On fait partie de ça. Si la qualité de l'eau se dégrade, si il y a de plus en plus de chaleur, s'il y a une perte de biodiversité, ça aurait des impacts sur notre bien-être à nous. Et quelque part, moi, j'aime bien un peu cette vision aussi, le développement durable. On ne le fait pas pour sauver la nature. On le fait pour sauver l'homme. Parce que quoi qu'on fasse, la nature, si l'homme disparaît, elle s'en remettra. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc là, ce qu'on est en train de dire à essayer d'améliorer, c'est oui, il y a non seulement un côté de sensibilité, parce que moi, à titre personnel, j'ai pas envie de faire mal à d'autres formes de vie et à d'autres humains, mais il y a aussi le fait de se dire, mais c'est pour sauver notre peau aussi qu'on fait ça. Hein. C'est pour qu'on puisse vieillir dans de bonnes conditions, que les générations futures puissent avoir une vie décente. Donc, c'est pas juste une histoire de délire de personnes qui aiment bien faire des câlins aux arbres, quoi. Parce qu'on peut ne pas être sensible à ça, hein, je le comprends. Hein,
Tiens, je viens de faire une recherche. Ça me semble pas beaucoup, mais bon. Arnold Schwarzenegger consommait 3 825 calories par jour et pour prendre son muscle et tout. Bon, c'était à l'époque, hein, alors après, il donne à peu près ce qu'il mangeait. Mais il y avait, bon, beaucoup quand même de viande, de céréales, etc. Mais c'est vrai que quand tu vois, tout à l'heure, tu disais, oui, les 4 000 pour des sportifs, ils sont pas. Et franchement, quand on voit les coureurs du Tour de France, les cyclistes, mais même les
Oui,
cyclistes en général,
c'est dur.
qui font des heures et des heures, etc. La consommation, moi, je vois à quel point ça prend. C'est vrai que finalement, si tu fais des multiplicateurs, si tu vas chercher toute ton
Oui.
alimentation sur de la viande ou si tu vas aller chercher sur un truc qui est plus, on va dire le terme flexitarien, mais on va dire omni, quoi, global, où on a un
Oui.
peu de tout, c'est vrai que par la multiplication des choses, l'impact devient extrêmement important. Tu as un ex-équipe qui se fait, qui est extrêmement important. Et tu vois, moi, des fois, c'est vrai que je trouve que le monde est du trail un petit peu, tu vois, il veut dire, ouais, c'est scandaleux, il y a tel sponsor sur tel truc, il y a tel, ils font ça, etc. Mais c'est vrai que globalement, on pourrait regarder d'autres choses aussi en se disant, bah nous, est-ce que finalement, on pourrait pas aussi un petit peu améliorer? C'était un petit peu le but de cet épisode, de prendre
Oui.
conscience de ça, de se dire que à notre échelle, bah les calories dont on a besoin et les nutriments dont on a besoin, les macros dont on a besoin, oui, on peut aller chercher dans la viande. On n'est pas obligé d'aller chercher le surplus systématiquement dans la viande. On peut aller chercher ailleurs. Et en se posant la question d'ailleurs, déjà, on a un impact qui est peut-être. Qui est, enfin, qui est pas peut-être, qui est très important parce que tu as donné des chiffres, et que dans notre réflexion, ça ne veut pas dire qu'on soit obligé d'enlever toute la viande pour ceux qui aiment la viande et qui pensent qu'il faut la garder, etc. Mais que si on veut réfléchir globalement, bah, c'est vrai que finalement, ces calories qu'on dépense en plus et qu'on ingurgite en plus, il faudrait chacun peut-être réfléchir un peu à d'où elles viennent.
Oui, et puis on peut aussi s'offusquer sur certains trucs sur les courses, mais en fait, si nous, on change notre manière de consommer au quotidien, quand on viendra sur les ravitaillements, on cherchera pas les mêmes choses. Donc en fait, aujourd'hui, pourquoi est-ce que les ravitaillements, ils sont constitués comme ils sont? C'est parce qu'il y a une demande du coureur. Mais si nous, on change notre manière de nous alimenter, on aura une demande différente. Et donc, Bah, donc les ravitaillements seront différents aussi. Et au final, en fait, l'impact individuel, l'empreinte individuelle, déjà pour l'alimentation, elle peut être énorme, mais il faut avoir conscience que c'est pas parce qu'on peut se dire, oui, mais moi j'ai un tout petit impact par rapport à des grosses entreprises. D'accord, mais en fait, si ces grosses entreprises, elles existent, elles font ça, c'est aussi parce que bah, y a des clients, c'est aussi parce que on est. Quelque part, j'ai envie de dire, on n'a pas changé d'état d'esprit. Et le fait de prendre conscience comme ça et de petit à petit changer, ça change notre regard sur le monde, ça change notre regard sur la vie en général. Et je pense qu'on subit beaucoup moins les changements comme ça. On subit. Enfin, j'ai un peu ce truc de me dire, bah, ouais, vaut mieux choisir le changement que de le subir. Aujourd'hui, on fait face à une raréfaction des ressources, à des difficultés d'approvisionnement dans certaines choses, et il y a fort à parier que dans les années à venir, bah, il va y avoir peut-être plus de restrictions, il va y avoir des produits qui deviendront beaucoup moins disponibles. On ne sait pas ce qui va se passer parce qu'il y a une raréfaction du pétrole, donc peut-être que des avions de l'autre bout du monde ne pourront pas venir. Il faudra peut-être rééquilibrer aussi parce qu'il y a des pays qui auront besoin de plus d'alimentation que d'autres. Donc, quelque part, se dire, je vais essayer déjà dès maintenant d'adopter une alimentation qui est plus durable et plus en accord avec des valeurs universelles, bah, ça nous laisse le temps aussi de nous habituer et de découvrir. Et je pense que j'aimerais bien insister là-dessus aussi, c'est faut pas prendre ça comme une frustration en fait. Au contraire, il faut se dire, mais si je diminue ma consommation de viande, en fait, je m'ouvre porte de découvrir mais plein de trucs. Parce que je pense que quand. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas. Quand je mangeais de la viande, on ne se pose pas de questions. C'est genre, j'ai le steak et les haricots, quoi. Et quand on se dit, bon, alors maintenant, il faut que j'enlève le steak. Commence à manger des pois chiches. Ouais, au bout de 3 jours, ok, c'est bien les pois chiches, mais j'en ai marre, là. Et ça force à aller découvrir et à être curieux. Et franchement, y a plein de trucs chouettes à faire. Enfin, en termes de recettes, bon, faut aimer un petit peu cuisiner, hein. Enfin, on peut faire des trucs très simples. J'ai des amis végétariens qui n'aiment pas cuisiner, hein, c'est pas un problème, mais. En tout cas, si on aime être un peu curieux, si on aime, il n'y a aucun souci et on n'est pas frustré. Hein. Moi, je sais que j'ai réussi à faire en sorte depuis 2 ans. C'est moi qui cuisine à Noël et je fais un Noël vegan pour toute ma famille. Je suis la seule végétarienne de ma famille. J'ai de la famille dans le sud-ouest, autant dire que le foie gras, voilà. Mais j'ai réussi à leur faire des Noëls végétariens et à avoir des compliments. Donc comme quoi, même les grands-parents m'ont tué. Mais mes grands-parents qui se foutent de moi parce que je bouffe du tofu et qui me disent que c'est un goût d'éponge, bah, j'ai réussi à leur en faire manger, c'était bon. Voilà.
Tu sais, je vais finir sur un truc parce que quand on avait fait les fameux épisodes sur les carences véganes, j'avais eu un truc qui me disait, oui, mais Scott Jurek, qui est le modèle Scott Jurek, quoi, disait, oui, mais vous voyez, Scott Jurek, il est vegan, il est sportif de haut niveau, etc. Et tu sais, moi, j'ai des chiffres parce que j'ai creusé le truc et ça m'a interpellé. J'ai creusé le chiffre sur Scott Jurek, quand même, pour voir un petit peu. Donc, Scott Jurek, sur une moyenne, il mange entre 3000 et 4000 calories par jour. Quand il s'entraîne sur des grosses courses, il mange entre 5 et 6 000 calories par jour. Quand il a traversé les États-Unis en courant, il a consommé 8 000 calories par jour pendant 75 jours. Donc là, on mesure aussi que effectivement, l'impact de ce qu'on mange multiplié par le nombre, 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 devient extrêmement important. Alors ce qui est intéressant, c'est que je mettrai un lien dans les notes de l'épisode parce que on connaît exactement tout ce qu'il a mangé et effectivement, il était entièrement végétal. Il s'arrêtait toutes les 5 miles, donc ça fait quand même des arrêts réguliers
Ouais, ça.
pour arriver à manger ça. Et c'est vrai que quelque part, il y avait beaucoup, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Il y avait aussi du beurre de cacahuète, il y avait aussi du chou, il y avait des graines de chia, il y avait des patates, des fruits, des smoothies. Quand même, il a mangé beaucoup, beaucoup de beurre de cacahuète. Faut dire, quand même, quand je vois le
Ouais,
truc.
mais le beurre de cacahuète, c'est tu le manges pas parce que t'en as besoin, le beurre de
Ouais, il
cacahuète.
mange, tu vois, en apport calorique, etc. Et en densité aussi, c'est là où ça devient important aussi. On a des
Ouais,
questions
non,
de densité
c'est.
qui
Bah, moi, j'en
deviennent.
mange beaucoup.
Ouais.
C'est vrai que là, depuis que je suis à La Réunion, alors ça se trouve très très facilement à La Réunion, c'est un bonheur.
Ouais.
La Dakatine, c'est la ville à Dakatine.
Ouais.
Mais non, c'est. Bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui est dense en calories, qui est super pratique. Après, effectivement, hein, ça a des impacts, oui. Mais. Je veux dire, si on ne veut pas avoir d'impact du tout, Bah, faut juste pas vivre. La
Ouais.
question, c'est de savoir enfin, il y a des, voilà, c'est de connaître les ordres de grandeur, quoi. De dire, oui, ton beurre de cacahuète, il a de l'impact, oui.
Alors j'essaierai de calculer, mais je mettrai dans l'intro, calculer, parce que j'ai trouvé le nombre de pots de beurre cacahuète qu'il a mangé. Mais j'ai pas le poids des beurres cacahuètes, c'est dommage. Mais
Ah oui, dommage, là, ouais.
environ, il a mangé environ 500 bananes quand même sur sa traversée.
Ah, c'est pas mal
Et
ça.
une quarantaine de pots de beurre cacahuète. Donc je sais pas la taille des beurres de cacahuètes.
Oh, ça part vite, hein. Ça part très très
Ça
vite,
part
hein.
très très vite, ouais, mais ça dépend de la taille du pot de beurre cacahuète. Mais tout ça pour dire, voilà, que c'était un épisode qui était vraiment sur un sujet. Et c'est vrai que, toi, moi, quand j'ai fait des recherches, j'ai regardé un petit peu. Quand on parle de l'impact écologique des courses, du trail, on en parle beaucoup sur plein d'aspects. Je le dis, hein, on en a parlé déjà sur tout ce qui est matériel, tout ce qui est déplacement, tout ce qui est. Y compris, on pourrait avoir des trucs, hein, parce qu'on pourrait parler par exemple du matériel pour d'autres sports, parce qu'on pourrait parler de vélo, avec le prix des vélos, la fabrication des vélos,
Oui.
d'où viennent les pièces. C'est un truc qui est infini. Mais c'est vrai que le côté alimentaire, même quand on en discute un petit peu avec les uns et les autres, il n'est pas trop pris en compte. On voit quand même qu'il y a des trucs, parce qu'il y a des marques qui disent oui, maintenant, on va essayer d'avoir une pêche plus responsable. Donc, on va essayer de sourcer des ingrédients, des compléments chez la pêche responsable. On va avoir des éco-packs pour avoir au lieu de faire des petites compotes, on fait des gros packs de compotes. Essayer d'avoir des trucs plus gros. Tu vois, je te disais tout à l'heure, le pot de gel, on peut avoir tout un tas de trucs. Et on disait aussi la dernière fois, les ravitaillements qui vont peut-être petit à petit changer. J'ai du mal à voir quand même en Auvergne que t'aies pas un bout de fromage sur les
Oui, ben
différents
oui.
trails. Mais peut-être que c'est vrai qu'un jour ou l'autre, si les gens finissent par en vouloir moins, ben peut-être que c'est les habitudes qui vont changer. Et puis peut-être qu'un jour on arrivera aussi sur des trails où finalement le ravitaillement, ben, on va dire aux gens, ben, vous amenez le gros de votre ravitaillement, on a des trucs en
Oui,
cas de
c'est
besoin,
ça.
mais franchement, soyez responsable de votre ravitaillement et que peut-être c'est aussi une solution pour que réduire aussi. J'ai envie de dire, certains gaspillages et certains trucs
Oui.
dont on a parlé tout à l'heure. On ne sait pas. C'est des pistes.
C'est vrai que c'est quelque chose, l'alimentation, on se pose beaucoup de questions, mais même pour l'environnement. Et alors ça, c'est peut-être un peu en dehors, mais je trouve ça quand même important de le dire. Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir aussi des connaissances. Et pour ça, je l'avais mentionné tout à l'heure, mais on peut tous aller, si on a une question, par exemple, aller sur Google Scholar. C'est un moteur de recherche Google qui est dédié aux articles scientifiques. Et taper les mots-clés de la question, et là, bah, on accède à des publications. Et alors, il y en a beaucoup qui sont payantes, mais dans tous les cas, on peut lire ce qui s'appelle l'abstract, qui est le résumé, et qui va donner en gros, les principales trouvailles de l'étude. Et des fois, si on a des questions toutes bêtes, ça peut être hyper intéressant dans un débat d'aller juste voir ça. On n'est pas obligé de lire l'article scientifique hyper complexe, juste l'abstract, et ça peut donner des petites infos. Et l'avantage quand on lit ce genre de publication, quand on va sur Google Scholar, en tout cas, c'est que c'est des articles qui sont ce qu'on appelle peer-reviewed, c'est-à-dire que ça a été validé par d'autres chercheurs. Donc, ça ne veut pas dire que l'article, il peut pas avoir des erreurs, être erroné, mais en tout cas, c'est pas comme quand on lit un article journal. Là, vous avez ce qu'on appelle en fait la connaissance brute, et ça n'a pas été retravaillé par des biais. Là, vous avez des résultats d'une étude. Et ça peut être hyper intéressant de. Je pense que ça peut être sympa que davantage de personnes aillent regarder un peu ça. Parce que bah déjà, ça peut attiser la curiosité. Il y a des articles qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, mais il y en a qui sont totalement gratuits. Et si vraiment on est curieux, franchement, il y a des petits trucs sympas à lire, genre sur les ordres de grandeur, des choses comme ça. Mais j'encourage vraiment à aller se documenter pour essayer de comprendre les choses et pas juste rester dans des débats d'opinion sans savoir. Parce que c'est important de comprendre, en fait, si on veut comprendre, si on veut faire des choses et avancer, ben en fait, comprendre pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qui peut être mieux, c'est se baser sur des connaissances qui existent et comprendre que c'est pas noir ou blanc, qu'il y a encore des débats, qu'on peut voir des tendances, mais que c'est pas aussi clivé que ça, quoi.
Eh bien écoute, c'est une très belle conclusion, en tout cas. Donc voilà, c'était une autre approche, hein, de l'alimentation et de se poser la question de l'impact. Bien sûr, on avait fait l'autre épisode sur Kilomètre 42 sur la partie l'impact sur les chemins, etc. Enfin voilà, il y a tout un tas de côtés, mais on s'en rend compte, hein, que nos pratiques, oui, le sport, on se fait du bien, on est en bonne santé et tout. Mais ça n'est pas sans impact sur l'environnement dont on fait partie au sens large. Et c'était le message important. Donc moi, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. C'est vrai, quand on creuse un petit peu, on se rend compte quand même qu'il y a des choses. Et puis quand on voit un petit peu ces ordres de grandeur que tu as donné, on se rend compte un petit peu de l'impact. Parce que si chacun regarde un petit peu ses calories, peut-être déjà, il va se dire, waouh, comment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je consomme? Comment je le consomme? Etc. Revoir aussi, parce que c'est vrai que ces sortes de transports, je pense que on a des idées qui sont un petit peu comme ça arrêtées, tu vois, c'est comme le truc du soja, j'en ai pas reparlé parce qu'il y a tellement d'articles sur l'histoire du soja,
Oui,
sur
là,
la
c'est
déforestation,
encore autre
que
chose.
là-dessus, je pense qu'il faudrait faire un épisode complet sur le soja parce que y a tellement de
Ah,
trucs
ce
qui...
serait hyper intéressant, bon, puisque
Ouais.
entre les aspects liés à la déforestation et les aspects liés aux peurs vis-à-vis de la
Ouais.
santé, c'est vrai que le soja, ouais, ce serait super intéressant,
Ouais,
là,
c'est
pour
un
le
truc
coup.
mais qui a un sujet qui est vraiment très large et tout. En tout cas, bien, dans pas longtemps, il y aura un sujet sur le café. Et là, je pense,
Ah ouais,
il y a peut-être des trucs aussi.
aussi.
Il y a peut-être des trucs et des petits questionnements aussi à voir là-dessus. En tout cas, vous verrez bien. En tout cas, moi, je prépare ça. Élise, je te remercie beaucoup. Bon, je mettrai rien dans les notes de l'épisode. Et n'hésite pas alors à m'envoyer, hein, si t'as quelques liens passés, je mettrai dans les notes de l'épisode, comme ça, les gens pourront les creuser un petit peu. Je mettrai le lien vers ton compte Instagram aussi. Et t'as un mot à rajouter?
Bah franchement, s'il y en a qui sont intéressés pour avoir les publications ou enfin limite je pourrais te faire passer le guide que j'avais fait pour la BVX. Mais si des gens sont intéressés pour avoir des publications, des choses comme ça, franchement, qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer un message ou à te l'envoyer ou quoi, et je les enverrai avec plaisir parce que moi je les ai en PDF, donc
Ça marche. Eh bien,
voilà, il n'y a
écoute,
aucun problème.
sur ce, moi je vais manger ma petite cuillère de beurre de cacahuète. Je vais regarder. C'est mon petit
Mais
plaisir. Ouais, moi j'adore ça. Hein. Et de toute façon, on va faire un club.
je vais pas dire le contraire.
Vas pas me dire le contraire. De toute façon, ça fait partie des produits qui en apport énergétique et tout. Hein. C'est une vraie question. C'est un vrai questionnement. Parce que quand on parle aussi de calories qu'on doit ingurgiter et d'énergie dont on a besoin, les stratégies pour en avoir assez sans se gaver de tout un tas de choses, ça fait partie aussi des grands questionnements, mais ça on en parlera une autre fois. Sur ce, je clôture cet épisode, parce que c'est encore un autre domaine, je clôture cet épisode, Elie, je te remercie, puis écoutez, on se retrouve semaine prochaine pour un autre épisode de questions. Donc n'hésitez pas dans les formulaires, là il y a des questions, dans les notes d'épisode, il y a un formulaire, un lien vers un formulaire pour poser votre question, si vous avez des questions plus techniques, plus pratiques, etc. sur l'entraînement, l'alimentation, l'entraînement, tout ce qui est relié. Et puis, vous savez, tous les 15 jours, avec des invités pour parler de divers sujets. Et notamment, il y a des questions aussi qu'on va aborder dans pas très longtemps. C'est aussi d'autres questions sur, des fois, les questions qu'on se pose aussi sur quoi manger, comment manger, puis comment transmettre ça à nos enfants. Tu vois. Et il y a des trucs. Grande question. Très, très grande question. Mais j'en dis pas plus. C'est en cours de préparation. J'en dis pas plus. Ça va arriver vite. Et je crois que là, il y a encore d'autres interrogations. On va continuer à dérouler le fil. Merci, Élise.